Bonjour à tous et bonne année. Premier Comic City de l'année 2011. Donc c'est le numéro 47. Et comme toujours, je suis avec Monsieur
Allez,
Onimaru.
venez.
On va faire quelques petites news et un programme assez chargé de reviews, surtout puisque pas mal de choses sont sorties au début de l'année. On nous a abreuvé de choses assez intéressantes, mine de rien, dans le déroulement de l'univers Marvel en tout cas. Parce que
Ouais,
ça ne sera
ce sera du kiosque.
que du
Alors, on
kiosque
va traiter
Marvel.
la librairie dans le prochain, parce qu'il y a déjà de la librairie qui est sortie en plus.
Ouais, et l'année que 2011 commence fort au niveau des publications en tout cas.
Bah, elle se terminait avec peu de choses, donc forcément. Et puis ça va être pire la semaine, là, je veux dire, le mois prochain avec
Le
Angoulême.
mois de février va être terrible. Déjà la fin du mois va être terrible pour faire les choix, mais alors la mois de février, ça va être vraiment difficile.
Très difficile. Je sais pas comment on va faire.
Des podcasts de 4h30, je pense.
Non, ça va être compliqué quand même. On verra, on vous tiendra au courant comme d'habitude de l'évolution des événements. On commence comme d'habitude avec quelques petites news et Steve, je vais te laisser la parole,
Ouais, pas
peut-être.
grand-chose à se
De
mettre sous
toute
la
façon, oui,
dent.
il n'y a vraiment pas grand-chose, donc on va aller être assez vite.
Alors déjà, je vais faire mon mea culpa. Pour ceux qui auraient écouté le Comic City Chronicles numéro 2, je disais dans mon flop que Savage Dragon était le flop de l'année de par la ligne éditoriale et le fait qu'ils aient choisi de publier des épisodes qui ne servaient à rien et que du coup, il n'y aurait plus d'autres dragons. Ils avaient fait tomber la ligne dès le premier tome. Eh bien, apparemment, je me suis trompé. Toutes mes excuses à Delcourt.
Enfin, cela dit, ça
Mais
n'a pas
enfin,
été un succès non plus et tu n'as pas entièrement tort. Hein,
je me suis trompé qu'à moitié, mais comme je me suis trompé, quand même, je fais toutes mes excuses à Delcourt. Ils vont bien continuer le Savage Dragon, il y aura bien un tome 2, mais apparemment, celui-ci ne serait qu'en souscription.
ce qui est assez bizarre quand même, comme stratégie,
C'est
quoi.
bah, histoire de pas en imprimer trop et de pouvoir entrer dans les frais, quoi. Je pense que ceux qui voudront l'acheter
Alors, est-ce que tu
le
penses?
réserveront à l'avance et puis ils imprimeront en fonction.
Est-ce que tu penses qu'on pourra quand même le commander via son comic shop ou vraiment uniquement
Ah, je pense que ce sera uniquement souscription sur le site de Delcourt. Enfin, je
Ah ouais.
pense que ce sera comme ça. À moins que le comic shop passe des commandes groupées directement par la souscription, les commandes directement à Delcourt. Je sais pas trop. En tout cas, bon, c'est une des solutions qu'ils étudient pour le moment. Il n'y a rien de définitif, mais on n'annonce pas qu'on risque de faire de la souscription alors qu'on n'en fait jamais. Finalement, on fera une autre solution, quoi.
Parce que rappelle-toi ce qui s'est passé avec Invincible. Invincible, les trois premiers tomes n'avaient pas forcément super bien fonctionné. Ils ont sorti un jour le quatrième. Les gens ont lu le quatrième et ils se sont intéressés finalement à la série et ont recherché activement les trois premiers. Et du coup, maintenant, la série fonctionne suffisamment pour qu'ils sortent le cinquième. D'ailleurs, le cinquième est sorti, on en parlera d'ailleurs la prochaine fois.
Oui,
Petit
exactement.
teasing.
Librairie.
Ben voilà, donc tout ça pour dire que peut-être qu'en sortant le deuxième, d'un seul coup, ça pourrait fonctionner, quoi.
Oui,
Ça
puisque
dépend.
déjà, ce sera la série régulière,
Bah,
normalement.
j'espère bien
Donc,
qu'ils vont pas digresser sur autre chose, quoi.
de toute façon, il ne reste quasiment que des choses écrites par Larsen lui-même. On n'aura
Ouais.
pas donc à se taper des mini-séries de merde,
Nicky
écrites par des
Larson.
gens. Oh là là. Oh. On n'aura pas à se taper des mini-séries de merde écrites par des gens qui ne connaissent pas le personnage, puisque ce n'est pas le leur. Donc voilà quoi. Au pire, les mini-séries qu'il y a à côté sont plutôt intéressantes aussi. Donc, normalement, ça devrait être du bon quoi. Reste à voir quand cela sortira, à quel prix cela sera aussi. Puisque la souscription avec peu de numéros, du coup, ça risque de faire augmenter les coûts de fabrication pour Delcourt et donc les coûts pour le public qui va acheter quoi. Attendez-vous à quelque chose qui va tourner autour des 35 euros, à mon avis. Enfin, je dis ça, j'ai aucune idée du prix, mais je pense qu'ils vont augmenter les coûts et répercuter. La différence sur le public, ce qui est logique. Voilà, donc c'est une semi-bonne nouvelle, tiens.
Ah, moi, je m'y intéresse en tout cas. J'essaierai de l'avoir. Alors, bon, par souscription, si je peux pas faire autrement. Mais de toute façon, c'est une commande que je passerai. Ouais. Eh bien, on continue dans les bonnes nouvelles chez Delcourt. Irrécupérable. Tu te souviens, le premier tome, on a vraiment bien aimé.
Ah
C'était
bah
l'une des
oui,
grosses surprises de l'an dernier.
c'est excellent.
C'est vraiment très très bon. Eh bien, le tome 2 arrive en février, avec les épisodes 7 à 12. Donc, j'ai hâte de les lire parce que j'attends vraiment. En fait, comme Walking Dead, j'attends vraiment la sortie française pour lire la suite de cette série. Surtout que la traduction est très bien menée. Enfin, en tout cas, pour le premier volume, était très correct. Je peux pas dire de bêtises, donc je vais pas dire le nom du traducteur parce que je sais plus si c'était lui ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'étais vraiment satisfait par la version française. Donc, du coup, je continuerai a priori à le faire en français. Surtout qu'aux États-Unis, on n'est pas si loin. On est à l'épisode 20-21.
série qui continue son petit bonhomme de chemin tranquillement.
Et il paraît qu'il devient de plus en plus passionnant, donc j'ai vraiment hâte de la lire. Sinon, aussi chez Delcourt, on va avoir la sortie de Haunt en février, toujours. Les 6 premiers numéros de Haunt qui sont sortis dans les chroniques de Spawn vont sortir en relié, comme ça les gens qui ne s'intéressent pas forcément aux chroniques de Spawn ou qui ne les auraient pas lues, et bah, pourront lire Haunt, donc aussi une série de Robert Kirkman.
Du TPB à la française, ça c'est quelque chose de pas banal.
C'est vrai que c'est ça, ouais. C'est vrai que c'est... Bah ouais, finalement c'est ça.
C'est
Or,
une
bah,
bonne idée, moi je trouve.
ça existait du temps peut-être de ces mythes, tu sais, qui faisaient des reliés sous souscription justement
Ah
d'histoires
c'était.
qu'ils avaient
Ouais, mais
sorties.
c'était vachement longtemps après, quoi.
C'est vrai.
Là, il y a quand même. C'est relativement proche de la sortie du dernier épisode qui sera présent dans le relié. Enfin, voilà, c'est. Je sais pas, du TPB à la française, moi j'aime bien. J'aime bien le concept.
Mais en tout cas, donc voilà, la série Haunt, alors j'ai du retard sur cette série, pareil, qui est toujours pas mal. Effectivement, bon, à côté de Spawn, bah, tout le monde ne va pas accrocher à Spawn, quoi. Donc je trouve que c'est quand même une bonne idée aussi de le proposer séparément, en librairie. Voilà, donc bon, bah alors, beaucoup de choses intéressantes prochainement chez Delcourt, qu'on va
Ouais.
traiter. Et puis Invincible, numéro 5, donc comme je sais, qui est déjà sorti.
Jetez-vous dessus si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment du bon.
Bah, j'ai commencé à le lire aussi, donc. Voilà. Toujours aussi sympathique.
Dernière news, avant de passer au review. Le LCF de 2011 a été annoncé. Déjà, on a les dates. C'est le 5 et 6 novembre 2011, évidemment. Et ce sera toujours à la salle du gymnase, donc le même endroit que l'année dernière, et Comic City de toute façon, ainsi que Cap Chronicles, seront présents quoi qu'il arrive.
Ouais,
Donc.
voilà. C'est suite à la consécration, en fait, on a rendu cette lettre de noblesse au festival. Je pense qu'on peut le dire. Et voilà, et du coup, forcément, on reprend la même salle parce qu'on change pas une équipe qui gagne.
Putain.
Je
Ah,
crois que
c'est ça.
Nono sera très content d'entendre ça. Son chapeau va sauter.
Alors ceci là tu m'as pris par surprise. Je m'y
Voilà.
attendais pas du tout. Donc bah voilà, commencez à réserver vos dates hein, si vous voulez y aller.
Oui, ou bien
Tout simplement.
réserver, oui. Prenez
Réservez une
prenez
semaine
votre
de
week-end, hein, parce que ça
congé.
tombera forcément un samedi, un dimanche. J'imagine. Et voilà, et bah, on espère encore des artistes nombreux, talentueux, etc. De toute façon, ils le seront forcément.
Et on
Et
vous tiendra au courant dès qu'on aura des noms des personnes qui viendront.
alors, ce sera pas pour tout de suite. Par contre, il va falloir être patient. De toute façon, on imagine que ce sera tout aussi bon que la précédente édition.
Exactement. Allez, cette fois-ci, on passe aux reviews et on commence par le monde mutant avec le X-Men numéro 168.
168.
Premier épisode, c'est le X-Men Legacy numéro 233. Au scénario, toujours Mike Carey, Clayman au dessin, Danny Mickey, Jay Layston et Alan Martinez à l'ancrage. C'est la dernière partie de Necrochat dans les pages de Legacy. Bah, c'est une fin avec un gros combat contre Proteus.
Ouais, c'est plus un truc à part finalement. C'est Necrochat sans être trop Necrochat,
Oui,
puisque c'est.
puisque bah, c'est simplement Proteus qui est revenu à la vie grâce à Séléné, et puis voilà. Quoique,
Et oui.
je sais même pas si c'est grâce à Séléné qu'il est revenu à la vie, en fait, puisque
Je crois pas. Ah oui, si, si, oui, bah oui, si, normalement. Mais
Ouais. Je commence à me demander si le lien avec Necrochat n'est pas juste le destiné.
oui, c'est ce que j'ai, c'est ce que oui. Possible. En tout
Voilà.
cas, il y a une scène intéressante aussi à la fin avec Destinée, justement.
Oui.
C'est peut-être ce qui est le plus intéressant d'ailleurs de cet épisode. Hein,
Ben, je trouve qu'il y a une autre chose assez intéressante, c'est l'utilisation du pouvoir de Magneto. Encore une fois, il utilise son pouvoir d'une façon très différente de ce qu'il a l'habitude de faire. Il étudie vraiment son adversaire, il se laisse presque vaincre par son adversaire
se
pour
laisse aller.
étudier sa physionomie et pouvoir le battre. Et j'ai l'impression que Magneto utilise son pouvoir vraiment différemment depuis son retour. Ça, je
Ouais.
sais pas si t'as senti ça comme moi.
Bah oui, non, mais effectivement, il utilise son pouvoir assez différemment et je me posais surtout la question de savoir s'il allait rester dans le cast de Legacy ou s'il allait rester dans Uncanny.
Ah, je pense qu'on va le voir passer puisque Mike Carey nous remet en place cette espèce de romance qu'il y avait eu à l'époque
Ah, le triangle amoureux, forcément.
vers la fin du run de Claremont avec Rogue et puis Eric
Espère.
quand ils étaient en Savage Land. Et voilà, Eric qui lui fait grosso modo des petites avances quoi. Donc je sais pas, moi j'aime bien, c'est une bonne période, ça me
Et
rappelle des bons
Gambit,
souvenirs.
hein, pour compléter le triangle, puisque
Ouais. Gambit qui n'est pas là pour le moment.
Oui, qui n'est pas là, mais on se souvient que Mike Carré avait relancé un petit peu cette intrigue. On voyait Gambit qui avait ces espèces de pouvoirs qui lui avaient été conférés par Apocalypse il y a quelques temps. Donc, à mon avis, on va repartir un petit peu là-dessus prochainement.
Bah, j'espère qu'on reverra Gambit dans un rôle intéressant surtout. Parce que c'est un personnage qui, comme un personnage dont on parlera tout à l'heure dans Astonishing X-Men, est totalement sous-exploité aujourd'hui.
Bon, d'accord. Ben,
À
on
mon
en
goût,
reparle.
hein. À mon
Ouais.
goût, mais voilà.
Je vois pas de qui tu parles exactement, mais on en reparlera tout à l'heure, comme tu dis. On va peut-être passer tout simplement à la suite du
À la
magazine.
suite, ouais, la suite, bah, quand même, moi je trouvais que c'était un épisode sympathique.
Ah
Voilà, c'est
oui.
tout.
Ouais, bah, un épisode sympathique, mais un petit peu extérieur finalement à Nécrochat.
Ouais, voilà.
De toute façon, Nécrochat, voilà, bon,
On fait le
on
bilan
conclura
tout à l'heure.
là-dessus. Non, enfin non, non, c'est pas terminé d'ailleurs,
C'est pas
Nécrochat.
terminé, mais on pourra faire déjà un bon bilan, je pense.
Ouais.
La suite, c'était Uncanny X-Men numéro 522, une petite histoire bonus qu'on
Ouais.
avait à l'épisode 522, l'épisode du mois dernier, le retour de Kitty Pride. C'est Matt Fraction au scénario, Phil Jimenez au dessin, Andy Lanning à l'ancrage. Kitty, enfin, c'est une histoire sur un monde extraterrestre qui voit qu'il y a quelque chose qui le fonce droit dessus et tout le monde pense qu'il va mourir. On voit ce monde qui se prépare à sa destruction et en fait non, puisqu'il s'agit simplement de cette balle intangible dans laquelle est enfermée Kitty. Voilà, bon, une histoire sympathique, quoi. Très
Oui, bah,
sympa en bonus à un épisode, mais à acheter toute seule, non, quoi.
non, j'ai envie de te dire, par contre, c'est dommage, parce que finalement, ça aurait été plus drôle, entre guillemets, que, elle soit responsable de la destruction d'un monde sans le vouloir, et en fait, ce qu'on croit possible n'arrive pas, et bah, finalement, il se passe rien, quoi.
Non, je pense que ce que Matt Fraction a voulu dire, c'est que quand on croit qu'on est perdu, eh bien, les choses sont plus les mêmes, quoi. Puisqu'à la fin, on voit bien ce personnage principal de cette histoire qui tombe amoureux de sa voisine, finalement, enfin, ils vont se mettre ensemble, alors que finalement, ils s'étaient jamais réellement parlé.
Alors que toi, si c'était la fin du monde, est-ce que tu tomberais amoureux de ta voisine, Steve?
Ça dépend laquelle.
Voilà. Vu comment tu m'as parlé de ta voisine,
Ça dépend laquelle.
ok.
Il y a du vieux, il y a du jeune.
Ah, je savais pas pour le jeune. Moi, tu m'as juste parlé du vieux, comme c'est étrange.
Ah oui.
Oui,
Oui, non.
ben oui.
Voilà.
C'est Claire qui sera contente si elle entend le Comic City.
Allez, on passe à la suite, pas grand chose à dire sur cet épisode de toute façon. Ce sont les épisodes New Mutants 9 et 10. Au scénario Zeb Wells, au dessin Paul Davidson, aidé de David et Alvaro Lopez pour le numéro 10. Donc là, bah, on apprend pas mal de choses dans ces deux épisodes. Déjà, la vérité sur Iliana. Pourquoi elle est revenue, qu'est-ce qui s'est passé, et je dois dire que c'est assez intéressant quand même. On va pas trop spoiler, mais
Bah, c'est plus intéressant du mag quand même, ces deux épisodes.
Surtout ce qu'elle annonce, le pourquoi de son retour, cette destruction qui va venir, enfin qui les attend, bien comme d'habitude, hein, quelque chose va venir bientôt et va tout détruire, ça on est habitué, mais je sais pas, c'est assez intéressant. D'ailleurs, on voit ces personnages-là arriver. C'est assez énigmatique, les personnages sont mystérieux et dès les premières apparitions, je les trouve très charismatiques. Ces espèces
Ouais.
de soldats-là.
Oui, bah oui, qu'on va revoir forcément dans les prochains arcs.
Oui, ça va tenir une place assez importante apparemment.
Ouais, à mon avis, c'est le futur de la série, voilà, est annoncé ici, quoi, dans cet épisode.
Ça reste toujours très glauque, hein, bien évidemment.
Ah bah totalement. Totalement. C'est vraiment la marque de la série, la marque de fabrique. Et bah non, ça te remet de bonne humeur, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc à lire quand tu déprimes. New Mutants.
Le deuxième épisode est pas mal aussi, hein. C'est une espèce de grosse baston en fait, où les New Mutants interviennent face à des mutants du Savage Land, comme quoi on y reste, hein, d'un épisode à un autre. Des mutants qu'on n'a pas vus depuis un bon moment d'ailleurs.
Oui, enfin quoique, on voit quand même souvent le Savage Land, mais je sais plus. Je sais plus la dernière fois qu'on les
Bon,
a
moi en
vus.
tout cas, ça faisait un moment que je les avais pas vus. Et en fait, on voit que Scott est là pour chercher un nouveau leader pour les X-Men. Alors qui ce sera? On a déjà des petites idées, mais voilà, on comprend maintenant pourquoi il a décidé de reformer les New Mutants.
Oui, effectivement. Est-ce que c'est pour de bonnes raisons ou pas? Enfin, est-ce que ça va pas aboutir à quelque chose de mauvais? À voir quoi aussi.
En tout cas, moi j'ai trouvé ça deux épisodes super intéressants, et non, franchement, c'est une série qui continue bien, quoi.
Ouais.
Bon, la prochaine partie, c'est un épisode Siege.
Alors oui, c'est vrai, il y a ça aussi.
Hasard de la publication, voilà, c'est un épisode Taïna Siege, donc Siege qui sera terminé déjà depuis un mois quand celui-ci sortira en français, à moins que Panini décide de nous le zapper, j'ai pas été vérifié.
Ah, ça, je sais pas du tout.
Je pense pas, c'est pas
je
vraiment
pense
dans
pas,
leurs
parce que
habitudes.
maintenant on nous a plus à notre époque, normalement.
Ah, quoique, on attend toujours le Captain America 600, hein, par Jim Collan.
C'est vrai, ça.
Celui-ci a mystérieusement disparu. Je ne sais pas où il est passé.
Oh, ils vont peut-être le sortir dans un truc style incontournable un jour.
Ouais. Mais bon, enfin voilà, quoi, un épisode qui a disparu. Ok, il servait peut-être à rien dans l'histoire, mais c'est un épisode qui a disparu, quoi. On verra plus tard. Donc le magazine se termine par deux épisodes, deux mini-épisodes de petites histoires tirées de Nation X numéro 1. En Nation X, c'est une mini-série en quatre épisodes avec à chaque fois quatre petites histoires à l'intérieur, qui sont plus ou moins dispensables. Je dirais même plus que moins d'ailleurs. Mais bon. La première, c'est écrit par Simon Spurrier et dessiné par Leonard Kirk. Là, les Young X-Men disent qu'il y a un fantôme dans l'astéroïde M, hein, sur Utopia, donc. Et demande de l'aide aux X-Men qui sont trop préoccupés par autre chose. Donc finalement, c'est Magneto qui va les aider. Ils ont tous une petite crainte de Magneto, puisque bah, Magneto, c'est quand même le légendaire ennemi des X-Men. Hein, donc ils lui
Ouais,
font
qui est
pas trop
devenu
confiance.
mystérieusement super sympa, bah, comme il fut un temps d'ailleurs,
Voilà. Et
parce que c'est pas la première fois.
ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est comment Magneto s'amuse à leur dépens, à leur faire peur. C'était ça, j'ai trouvé ça très drôle, quoi.
Bah c'est même un petit peu comique, tu vois, c'est un petit peu. Enfin, c'est pas tellement dans son personnage d'ailleurs de faire ce genre de blague, généralement. Il est pas très fun Magneto, il est plutôt assez mystérieux, il dit rien,
Bah,
donc là.
vu qu'ils n'ont pas confiance en lui, qu'il se méfie, il en joue, quoi. Donc voilà, c'est assez drôle. Après le reste de l'épisode, bon, c'est Magneto qui a la sensation d'être sur la bonne voie en s'étant rangé aux côtés de Scott, quoi. Voilà, grosso modo, à quoi ça sert. C'est-à-dire donc pas à grand-chose. Le deuxième épisode est écrit par James Asmus et dessiné et ancré par Michael Red. Là, ce sont Kurt et Logan qui sont partis chercher une donation qu'un sympathisant à la cause mutante leur a donnée. Donc ils traversent une partie des États-Unis pour aller chercher. Je crois que c'est du fioul, hein. Et donc voilà, ils discutent de cette nouvelle orientation des X-Men, de la nouvelle orientation de Scott. L'épisode est très drôle. J'ai trouvé ça très drôle quand Wolverine dit que finalement il a du respect pour Scott et la réaction de Kurt à son encontre est assez énorme. Tu lui sautais dessus, mais qui tu es, t'es mystique, t'es un clone. Enfin, j'ai trouvé ça très fort.
Non, mais c'était marrant, dirons-nous. C'était marrant.
Celui-ci est sympathique, quoi.
Ouais.
Et puis bah les dessins de Michael Red, quoi, ça fait vraiment penser à X-Statix. En
Oui.
plus, le look de Wolverine fait vraiment penser à X-Statix, quoi.
Ouais.
C'était
Ouais.
sa veste en cuir et tout. Bon, c'est sympa, quoi.
Ou
Ça casse pas les briques.
à Zombie, rappelons-le, puisque.
Oui, Michael Red fait partie, enfin, est le dessinateur d'iZombie. Voilà, bon, c'est pas essentiel comme toujours, c'est juste sympa, quoi. Voilà. Donc un Mag X-Men plutôt sympa, même plutôt bon en fait, notamment pour la présence de ces deux épisodes de New Mutants. Le reste étant un peu plus dispensable quand même.
Oui, enfin, c'est quand même pas mal comparé à ce qui va venir ensuite.
Mais
On attaque.
on y passe tout de suite. Astonishing X-Men numéro 68. On commence par le Astonishing X-Men numéro 35, dernier épisode de la série Astonishing X-Men. Série qui maintenant s'arrête et qui continue, en fait qui devient une sorte de sous-catégorie, un peu comme était Marvel Knights à une époque. Les histoires Astonishing quelque chose seront des histoires qui se passeront hors de la continuité.
Ouais, c'est intemporel. On peut pas vraiment les
On aura,
placer.
voilà, on aura la première histoire Astonishing comme ça dès le mois prochain dans les pages de Spider-Man avec la mini-série Astonishing Spider-Man Wolverine.
Ça fait un peu penser aux OAV par rapport au manga, quoi.
Ouais, en quelque sorte, ouais.
Enfin, tu peux les placer chronologiquement, mais pas vraiment les insérer dans la continuité non plus, quoi.
Et puis je pense que ça n'aura aucune conséquence de toute façon.
Exactement. Donc,
Bah, au scénario, l'inusable Warren Ellis, hein, sur
enfin,
la série.
l'inusable, c'est jamais que son deuxième arc, hein.
Ouais. Enfin, si, je trouve d'ailleurs qu'il était un petit peu usé, moi. Enfin,
Oui.
Phil Jimenez au dessin, Dylan Ng à l'ancrage. Donc, comme je disais, c'est la dernière partie de son arc, là. Bon, bah, ça finit comme ça a commencé, quoi. Avec
Ah bah non, moi je trouve que
un gros...
justement, ça commençait avec une pointe de mystère et là il n'y a plus rien. Là au fait c'est vraiment l'épisode de trop, quoi.
Enfin, ça commence sur des scènes avec des gros monstres de partout, des gigantesques explosions, des flammes et tout. C'est pour ça que je dis que ça finit comme ça a
Ah
commencé,
oui.
du gros, quoi. Des trucs gigantesques, énormes. Et surtout, on a un Warren Ellis qui se fout ouvertement de notre gueule, quand même.
Au fait, quand tu
Par
dis...
l'intermédiaire de son perso.
Oui, mais justement, quand tu dis qu'il y a des personnages, des monstres énormes, ce qui est assez marrant, justement, c'est le contraste après avec le responsable de tout ça. qui est
Kaga.
c'est totalement la merde, c'est totalement la merde. C'est totalement l'inverse, je sais pas pourquoi il dit la merde. C'est-à-dire que c'est effectivement ben un espèce de mutant tout laid, sans pouvoir, sur une chaise roulante, alors, vraiment factice, quoi.
Ce qu'il y a d'intéressant avec cet ennemi-là, c'est que Warren Ellis explore, en tout cas à ma connaissance, une piste qui n'a jamais été explorée, c'est-à-dire un mutant réel. Un mutant qui. Enfin, quelqu'un qui a muté dû aux expériences. Enfin, à la bombe d'Hiroshima. Donc, c'est-à-dire un mutant comme on pourrait en croiser dans la vraie vie. Et à ma connaissance, ça n'a pas été exploité ça réellement dans les X-Men, alors que pourtant ces gens-là sont des mutants, au sens propre du terme.
Et là, justement, il est haineux envers les X-Men, puisque. Il estime que
ils sont beaux, ils ont des pouvoirs, ils sont reconnus par le public.
Voilà.
Même s'ils sont haïs, ils sont reconnus par le public, alors que lui est obligé de se cacher.
Voilà.
Mais moi, quand je dis qu'Alice se fout de notre gueule, c'est par l'intermédiaire de son perso, quand ce personnage-là dit aux X-Men, vous attendiez à quoi? Un mec qui veut détruire le monde, etc. Et voilà, Alice se fout vertement de notre gueule. Vous attendiez quelque chose de gros, ben voilà, je vous sors une fin.
Bah, ça, tu vois, encore, je l'ai trouvé pas mal, au fait, ce coup de théâtre du style, voilà, quoi, je suis finalement un mec assez normal.
Disons que ça aurait pu être sympa s'il n'y avait pas eu des délais monstrueux.
Moi, je trouve que ça aurait pu être surtout sympa s'il n'y avait pas eu vraiment cette toute fin à chier, puisque là, c'était vraiment ridicule. La toute fin est vraiment ridicule avec cette attaque inutile, on peut le dire quand même, de Wolverine, qui est vraiment ridicule. Vraiment,
tu la trouves ridicule alors que moi elle m'a fait beaucoup rire justement.
Non mais en fait ça se termine vraiment comme un cheveu sur la soupe avec une réplique, je sais plus ce que c'est.
Ah non, c'est Scott qui veut faire péter la bombe manuellement avec Wolverine.
Oui, voilà. Et ça se termine vraiment là-dessus. J'ai même cru d'ailleurs que tu sais que c'était ça continuait sur la page suivante et je me dis mais attends les graphismes c'est plus Phil Jimenez. et voilà. Enfin les graphismes, les dessins plutôt. Et donc, je sais pas. Franchement, j'ai trouvé la fin un peu ridicule quand même.
Moi, je croyais que tu parlais de la patate de Wolverine que moi j'ai trouvé magistrale. Avec un Wolverine qui dit mais c'était un fou quoi. Il avait une chaise roulante.
Oui,
mortelle quoi.
Ça c'était marrant, mais
personne qui le comprend.
Terminer comme ça là-dessus, après avoir démarré comme ça l'arc, tu disais il y a peut-être un truc intéressant derrière. Et le terminer comme ça, c'est vraiment voilà quoi, la bonne blague quoi, de prout-prout quoi, Warren Ellis.
Bah, c'est pour ça que je te dis qu'il se fout de notre gueule.
Oui, un petit peu. Et
pas qu'un peu, moi je trouve.
Bon, enfin ça aurait pu être intéressant et c'est dommage parce que ça a été mal exploité, je trouve au final. Et je trouve que globalement les personnages dans Asto sont quand même assez out of character quoi. Ils ont des réflexions les uns envers les autres assez assez bizarres.
Ouais.
Quand même, je trouve.
C'est voilà. Clair.
On dirait tous des gamins quoi, en colonie de vacances. Bon, enfin voilà. Après, on attend Xenogenesis, puisqu'il va y avoir une mini-série Xenogenesis dessinée par Karen Bose.
Bon, je sais pas où elle sera publiée, un 100% ou un...
Ah, je crois que c'est annoncé, alors, je de mémoire, hein, je crois que ce sera dans un 100% Marvel, effectivement, et plus dans les magazines.
D'accord.
Voilà.
On verra si ça vaut le coup ou pas. Série qui, je crois, n'est pas encore terminée aux États-Unis. Hein.
C'est fort possible, sachant
que... Je crois
qu'on
en est à la partie 4 sur 5 et que la cinquième n'est pas encore sortie. Ou alors elle vient juste de sortir, je ne sais plus.
Ouais.
Bref.
On y reviendra. Continuons donc.
Donc, la suite, c'est X Necrosha The Gathering.
Gathering.
Par Chris Kyle et... Non, Craig Kyle et Chris Yost.
Ouais, les deux.
Et beaucoup de dessinateurs, donc on ne va pas les citer, parce qu'en fait, ce sont des mini-histoires sur comment Selene a recruté des membres de son cercle... De mutants proches de ses fidèles, quoi. Vraiment ceux qui sont avec elle à ses côtés.
Son cercle intérieur.
Voilà.
Je crois d'ailleurs qu'elle le nomme comme ça. Ouais. Franchement, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, mais globalement, c'est assez dispensable. Ça sert juste, à mon sens, à enfin mettre un nom sur tous les visages des gens qui l'entourent, parce que je t'assure que j'avais du mal, quoi, dans les crochats. À savoir ouais. qui vient d'où, qui fait quoi.
Donc, je suis d'accord avec toi, c'est pareil pour moi, c'est trop... En fait, c'est vrai qu'X-Necrocha aurait dû être étalé beaucoup plus longtemps, peut-être prendre carrément un an, mais parce que tout est trop précipité. Ça va trop vite, il y a trop de choses qui vont trop vite.
Il n'y a pas de présentation claire et précise des personnages, ce qui fait que pour qui... Ben, de toute façon, on va en parler tout à l'heure, mais pour qui n'a pas lu New Mutants à la grande époque, ou Generation X... ou New X-Men, même plus récemment, avec tous ces morts qui ressuscitent là, bah, il les connaît pas, et il n'y a pas de... On te dit pas qui est qui, on te donne juste un nom, mais on te dit pas quelle est son histoire à proprement parler. Et là, donc, on voit quand même un petit peu, grosso modo, une bribe un petit peu d'histoire de chacun de ces cinq personnages, je crois, qui sont autour de Séléné.
Ouais, 4 ou 5, ouais, je sais
Quatre ou
plus.
cinq. Alors bon, le plus intéressant, ça reste quand même ce fameux Elibard, mais on avait déjà eu, de toute façon, son origine.
Ah, pour moi, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Le plus intéressant de ce numéro, c'est quand même Blink.
Ouais, quoique, en fait, il s'agit juste, en fait, de la Blink qui n'est pas celle des exilés, puisque celle des
Non,
exilés,
c'est la vraie Blink
la
de
vraie
l'univers
Blink.
616 qui était morte dès son apparition dans le crossover Phalanx Covenant, et qui en fait n'était pas morte, elle était juste coincée entre des dimensions. Et Séléné la récupère, donc
Mais
on a une Blink qui est de retour dans notre univers.
c'est pareil, parce que c'est intéressant pour qui a lu Phalanx Covenant à l'époque. C'était un crossover d'ailleurs avec Generation X, si je ne me gourre pas. Les débuts de Generation X.
C'était avant, juste avant, c'est ce qui a mené à la création de Generation X.
Voilà, ouais, avec Jubilee et tout.
C'était un crossover qui avait touché toutes les séries mutantes à l'époque, avec différents chapitres. T'avais une première partie dans Uncanny X-Men, X-Men, puis une autre dans Cable, X-Factor, Wolverine, et une troisième dans Excalibur
Câble
et
même, je crois.
X-Force.
Hein. Câble,
Ouais,
excuse.
Cable, ouais, Cable était passé. Toutes les séries en fait mutantes qui étaient passées à l'époque.
Ouais, j'en avais
Et
acheté
donc
quelques-uns de ces épisodes aussi, en
donc
fait.
ces deux épisodes de Uncanny et de X-Men avaient mené ensuite à la création de Gen X.
Voilà. Et pourquoi on dit tout ça? Oui, bah alors voilà, donc Blink. Blink, effectivement, moi qui n'ai pas lu, qui ai raté à l'époque cet épisode de la première apparition de Blink, je ne connais que la Blink des exilés, et du coup, j'ai
Ben
pas
oui, parce
de.
que ensuite c'est un personnage qui a été repris dans Age of Apocalypse, parce qu'elle avait eu vachement de succès auprès des lecteurs, donc elle était là, et puis ensuite dans Les Exilés, et c'est un personnage que l'on connaît que par une version alternative. Et finalement, la Blink sur la Terre Marvel normale, pensait tous qu'elle était morte, et finalement
Elle a
non.
disparu dans un clignement d'œil, quoi.
Donc voilà, ça c'est assez
D'où
intéressant,
son
puisque
nom?
c'est un personnage qui, à la fin normalement de Necrochat, à moins qu'elle se fasse tuer, quand Séléné va disparaître, puisqu'on se dit bien qu'elle va disparaître et que tous ces morts qui ont ressuscité vont disparaître, elle ne devrait pas disparaître, elle, puisqu'elle n'est pas morte.
Ah non, ils vont pas disparaître, ils vont aller ongoing ensuite.
Donc c'est ça qui est assez intéressant. De quel ongoing tu parles?
Ah, Selene and the Necrochamaniacs of the Zombie Overworld. Non. Non, il n'y
Ce
aura pas
sera un truc qui
d'ongoing.
atteindrait les profondeurs du classement en même pas 2 mois, je pense.
Ah non, ce sera les tops absolus de l'année. Bien sûr.
Donc bon, bah, c'est assez inconsistant déjà au niveau des dessins et puis même au niveau des histoires. Certaines sont vraiment plus intéressantes que d'autres. Une histoire qui est absolument ridicule et inutile, l'histoire sur la sœur de Dazzler, par exemple.
Ah non,
Totalement à
alors,
chier.
moi je trouve pas. Je trouve pas que c'est la plus inutile. Je trouve que, au contraire, c'est celle que j'ai retenue le plus. Celle que j'ai trouvée inutile, c'est celle avec l'espèce de ninja, là. Je sais même plus comment il s'appelle. Avec la gamine qui arrive dans une cabane.
Ben, en fait, c'est pas la gamine, c'est l'aîné qui s'est
Oui,
métamorphosé.
bien sûr, oui, qui s'est métamorphosé en gamine pour l'approcher. Mais enfin, je veux dire, on n'apprend rien sur ce personnage, du coup.
Nous, on n'apprend rien. Mais par contre, le dessinateur de cette petite histoire est très très bon, je trouve. Il
Oui,
a
d'où
un
le fait qu'on
style et
n'apprend
un
rien,
trait.
puisqu'au fait, il a pu faire que quelques pages, moins que
On a
pour les autres.
une magnifique Sélénée, quand elle se retransforme de petite fille à son corps normal. La page est magnifique. Puis même dans la forêt, enfin je veux dire, les passages dans la forêt, il
Oui.
y a vraiment tout un tas de détails. C'est vraiment joli, quoi. Alors
Bah,
je ne sais
c'est
absolument pas
peut-être
qui c'est, je n'ai pas noté son nom.
un futur grand nom, puisque apparemment, bon, c'était pas des gens super connus, hein, en règle
Non,
générale.
je crois pas, non.
Donc voilà, non mais c'était joli, mais par contre qu'on n'apprend rien quoi. Bon, bah, de toute façon, tout ça pour dire
On
qu'on
passe
passe.
à la suite, ouais. Le X-Force numéro 23, Kyle Ayos toujours au scénario, Clayton Crane au dessin. Bah alors là, c'est pareil, hein.
Ah
C'est de
putain.
l'action non-stop. On a beaucoup de morts, en tout cas des gens qui paraissent être morts. On verra bien s'ils s'en sortent ou pas, puisque il y a le retour d'Elixir, quand même, qui est assez important. Puis ce pacte que fait Himari à... Non, comment il s'appelle?
Imari, je crois, non?
Himari!
Non,
J'essaie de faire le H aspiré.
Imaru, je pense. Imaru.
Himari.
Comme Imari au nez. Imari, je crois.
Oh putain.
Non,
Il
mais
y a un
je crois que c'est
M.
ça, hein. Je crois que c'est Imari
C'est
de
Rimari. Voilà.
Rimari?
Oui. Rimari.
D'accord.
Voilà.
Rimari. Alors,
Avec
Rimari,
un
donc on
H
se demandait
aspiré.
pourquoi il était là. Et en fait, c'était juste pour faire une petite pirouette scénaristique. Ce serait comme dans un jeu vidéo, tu sais, pour avoir un petit peu le pass final pour ressusciter Elixir au moment voulu. Eh bien voilà, on a fait appel à ce personnage-là. On se demandait pourquoi Kal Elios te l'avait ressorti du placard. Eh bien c'était pour ça.
Bah, c'est aussi pour foutre un enceinte.
Oui aussi.
Aussi.
Aussi. Bon, faut voir où ça mène. Moi je.
Honnêtement, je m'en tape.
Oui, moi aussi, voilà, c'est
Mais je m'en
surtout
tape
le
toujours autant,
retour
mais
des sires, quoi.
ça a mis tellement de temps, ça a mis tellement de temps à se décanter que ça devient lassant et inutile.
Ouais, et puis bon.
Donc voilà, bon, Ran est de retour et puis
Ray.
Warpath se fait enlever et est emmené à Genosha, donc les X-Force vont aller à Genosha pour casser du zombie.
Ce que j'aime bien, c'est à la fin, la petite scène où... comment s'appelle-t-il déjà, ce méchant super
Vanisher.
classique? Vanisher, voilà, dit c'est bon, je peux m'en aller. Et puis, non, 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 tu restes avec nous. Tu vas nous
Totalement.
emmener même avec Genosha. Donc tu vois,
T'as
il a
encore
tout
une
gagné.
utilité, toi. Ouais, bah, c'est le pauvre gars, quoi. On en vient presque à avoir de la peine pour lui, quoi.
Ouais, moi je le trouve sympathique, je trouve qu'il
Mais
est
il
un
est
peu
tellement.
au-dessus pour par rapport à ce qu'il a fait, surtout que c'est pas vraiment un méchant super super
Ah, en même
méchant,
temps,
quoi.
il est assez désagréable puisqu'il ne pense qu'à lui, puisqu'il répète à longueur de case à Elixir de lui enlever sa tumeur, alors que Elixir est en train d'essayer de sauver Ran,
Ouais, mais
ce genre
attends,
de choses.
on t'aurait foutu une tumeur dans la tête, tu sais pas, attends, tu
Oui,
demanderas
mais
ce qu'on
bon,
t'enlève, quoi.
de là à le répéter toutes les 3 secondes, je sais pas. Moi, ça me taperait sur le système, je lui enverrais une tarte, quoi.
Ouais, mais néanmoins, voilà, bon, ça reste le méchant, le pauvre petit méchant sympathique. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais le problème de cet épisode, quand même, majoritairement, c'est ce que je reprochais à l'ensemble du crossover, c'est qu'avec les dessins en plus de Clayton Crane, j'ai vraiment du mal à distinguer ce qui se passe durant les bastons et qui fait quoi. Il y a
Et puis
vraiment des moments où je comprenais rien, mais
il y
rien.
a vraiment trop de monde aussi. Il y a beaucoup trop de monde.
Oui, il y a plein de New
Alors.
Mutants, enfin de. Quand je dis New Mutants, c'est. Non, il y a New Mutants et il y a New X-Men aussi. À l'époque des New X-Men avec les jeunes élèves, là, comme.
Bah Dust, les autres quoi.
Encore, elle, on la reconnaît bien, mais il y avait cette
Onyx.
jeune qui se transformait en espèce de métal liquide, là, qui refait son apparition. Et puis même des prétendants. Ah, Laurie, voilà, elle s'appelait Laurie, je crois. Bon, je veux pas te rappeler de mauvais souvenirs non plus. Mais je crois qu'elle
Mais oui,
s'appelait comme
mais
ça.
on en reparle justement dans l'histoire sur Wither, dans X Necrochat de Gathering. C'est elle dont il était amoureux, Wither.
Oui, voilà, c'est ça, oui, bien sûr, oui. Voilà. Et
Il y a beaucoup de monde, il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup de morts, donc on attendra la fin pour faire le compte, quoi.
Ouais, bah, je sais pas si on arrivera à le faire parce que force. Enfin, là, franchement, au fur et à mesure des cases, je n'arrivais même pas à distinguer parfois qui faisait quoi,
C'est un peu
qui
rushé quand
attaquait
même au
qui.
niveau dessin.
Il y avait un moment une espèce de nana qui ressemblait à celle qui fait du rock'n'roll. Comment elle s'appelle?
Dazzler?
Dazzler, ouais, qui se faisait attaquer par je ne sais qui, j'arrivais même pas à distinguer qui c'était. Enfin bref, voilà, ce genre de choses. Donc bon, franchement, Necrochat, pour le moment, mis à part le tout début.
Comme je disais, le problème, c'est que ça va trop vite, il y a trop de persos, et là où on crie souvent, pour pas dire qu'on gueule même, sur Bendis et sa décompression à l'extrême, entre autres, et ben là, justement, c'est vraiment l'inverse. Je pense que là, un petit peu de décompression aurait été nécessaire.
Ouais, mais enfin, il aurait fallu quand même un scénario à côté parce que là, il n'y en a pas beaucoup, quoi. À part les origines qui étaient intéressantes, les origines
Je
de
trouve qu'il y a un
Fantastique.
scénario, mais le problème, c'est qu'il est camouflé par toute la baston, quoi.
Trop de baston, tu la baston. Et surtout là, avec ses dessins, malheureusement, c'est pas facile de suivre des bastons par Clayton Crane.
Ouais, puis bon, c'est un petit peu rushé là, on le sent quand même.
Et après,
Ouais, on finit par
si on conclut, on a quand même
un petit épisode
la cerise sur le gâteau.
de Nation X encore une fois, troisième épisode de Nation X.
Ouais.
Chris Yost au scénario, Michel Bartilorenzi au dessin et à l'ancrage, et donc c'est une histoire comme le personnage que je disais, comme Gambit, qui est totalement sous-exploité aujourd'hui, c'est Iceman.
Ah oui, c'est lui dont tu parlais. Iceberg. Iceman? Iceberg. Ah oui, Iceberg en français, au fait.
Ouais, Iceberg en français, oui.
C'est
Mais
vrai.
Iceman en anglais.
On a tendance à l'oublier.
Donc oui, bah voilà, c'est Iceman qui fait des blagues, qui prend rien au sérieux, etc. Et on nous fait une petite pirouette à la fin pour nous montrer qu'il fait des blagues juste parce qu'il pense que les gens ont besoin d'être détendus, alors que même lui, au fond de lui, s'inquiète, il n'est pas sûr de la direction que prennent les X-Men, etc. On essaie de me présenter comme un personnage très sérieux, mais c'est un personnage qui finalement, aujourd'hui, ne sert absolument à rien.
Oui, ce qui est bien dommage, puisque rappelle-toi par exemple la période Lobdell, que tu as bien
Oui,
aimé,
il était très
avec
bon.
Madureira au dessin,
La
il y
fois où il avait
avait.
été possédé par Emma Frost, qui avait poussé son pouvoir à ses limites, qu'il était incapable d'y arriver. Et puis il avait eu des bonnes histoires ensuite, hein,
Avec son père
notamment avec
aussi.
son père, voilà, juste avant Zero Tolerance. Enfin, il y avait eu des choses, il y a eu des évolutions sur ce personnage qui à chaque fois ont été effacées. La période dans X-Factor aussi était pas mal. X-Factor, quand c'était
Oui.
les anciens X-Men,
Oui.
il avait eu un développement de personnage assez intéressant. Il avait eu une relation amoureuse avec cette japonaise dont je me rappelle plus le nom, Opal, je crois.
Ah, sans doute, alors
Mais
là, par contre, tu t'en
voilà, enfin,
souviens certainement mieux, quoi.
le personnage avait suivi des bonnes évolutions et malheureusement, il a dévolué Et aujourd'hui, voilà, il sert plus à rien, il sert tellement à rien qu'il est de toute façon jamais présent dans le cast des X-Men.
Il est à la dérive, comme un iceberg.
Oui, mais exactement, la vague de merde comprise, voilà, c'est ça. Et on attend qu'une chose, le réchauffement climatique, pour que ce soit la fonte des glaces, quoi. Et qu'il disparaisse à jamais, puisque de toute façon, il ne sert plus à rien. Donc, autant se séparer d'un personnage qui ne sert à rien et le tuer directement, quitte à faire un gros coup pour en disant, oh, on va tuer un X-Men, et ben tuer un iceberg, puisque de toute façon, il sert à rien.
Ouais, ouais, oui.
Plutôt que la future, le futur mort qui, enfin bon, je vais pas
ah,
le révéler
bah,
là.
On va pas le dire. Ou le ou les futurs, parce qu'il y en aura peut-être plusieurs aussi.
Un des futurs morts de Second Coming, préparez-vous à voir vos yeux pleurer.
J'allais dire voilà, justement, ça pourrait être iceberg.
Si seulement.
On va pas le dire.
Non mais voilà, enfin moi je suis vraiment déçu parce que ce personnage ne sert plus à rien alors que il a un potentiel pour être un bon perso. C'est dommage.
Non,
on voit quand même qu'il a une bonne
utilité.
Il a une bonne utilité sur Utopia, quoi. Il sert à faire de l'eau potable.
Oui.
C'est tout.
Bon, c'était pas très potable, cette histoire, par contre.
Non, non, mais c'était pas une vanne, quoi. C'était juste...
Non, mais cette histoire,
ah,
oui.
L'histoire ne sert à rien. Ne sert à rien. Il y avait aussi dans ce numéro une histoire sur Colossus, alors peut-être qu'on l'aura dans un futur numéro d'X-Men ou pas, je ne sais pas. De toute façon, c'était pas non plus très très intéressant. Bref,
ça conclut
notre passage mutant, ouais, et bah avec un Asto qui est quand même relativement faible, et finalement, est-ce pas plus mal que le numéro, enfin que ce magazine s'arrête le mois prochain.
Oui, bah de toute façon, c'est juste pour changer de titre.
Depuis,
parce qu'en réalité, on retrouvera à peu près la même composition.
Ouais, ouais, mais depuis 2-3 mois, tu vois, la qualité d'Asto est en baisse, quoi. Bah malheureusement, depuis Nécroche.
Ouais, mais j'ai hâte de retrouver X-Factor, j'ai hâte de retrouver... les X-Force d'avant Necrocha, si j'espère.
Bah, le mois prochain, les deux dernières parties, normalement. Et puis après, on passera à autre chose.
Voilà.
Second Coming, simplement.
Ouais. Qui, peut-être, sera intéressant. J'en ai lu très... J'ai quasiment rien lu, d'ailleurs. J'ai rien lu, d'ailleurs, de Second Coming.
Mais j'ai eu de très, très bons échos.
Bon, on verra.
Allez, on passe à la suite. On va faire un petit tour du côté de Spider-Man, maintenant, avec le numéro 132. Trois épisodes d'Amazing dans ce mag, le 618 à 620, au scénario Dan Slott et au dessin Marcos Martin, aidé par Javier Pulido pour le dernier épisode, c'est-à-dire le 600. Ben là, c'est pareil, c'est encore une fois tout à fait dans l'esprit de Brand New Day, on nous refait des histoires des années 70, 80, 90, puisque c'est vraiment sur la mafia avec la Magia, qui est gérée par Silvermane, donc voilà, c'est vraiment des personnages 60-70, quoi.
D'ailleurs, Slott, il joue pas mal avec ça, avec des allusions, enfin genre, il y a même ses gardes, ou Spider-Man qui est surpris de voir Silvermane, version robot, il y a même quelqu'un qui se fout, bah je crois que c'est Spider-Man qui dit, t'étais en bébé, ensuite t'es redevenu à l'âge adulte, ensuite t'étais en robot, enfin voilà quoi. On sent vraiment que c'est le personnage qui est passé par tous les stades et qui au final ne sert pas à grand chose quoi.
Non, c'est clair. Je me rappelle cette histoire où il finissait en bébé, ouais. C'était assez drôle.
Je l'avais dans un album araignée, moi.
Moi aussi.
Que j'avais trouvé dans une station-service, à l'époque. On trouvait quand même de belles choses dans les stations-service, hein, il fut un temps.
Et pas que de l'essence.
Pas que de l'essence, ouais.
Qui à l'époque n'était pas aussi cher qu'aujourd'hui.
En plus. Ah, avant, l'herbe était plus verte. Bref.
Ouais. Plus d'un euro 38 pour un litre d'essence, ça fait mal.
Ouais, et puis surtout à l'époque, ça te coûtait rien, hein. Les albums araignées, c'était vraiment, tu sais, ce qui s'était vendu sous plastique en réduction, quoi.
Ouais.
Avec d'autres numéros, comme ça, au hasard, quoi.
Enfin, bah, moi, je trouve que c'est un bon arc, centré sur Carly et principalement, puisque bah, Dan Slott, hein, donc c'est le personnage qui l'a amené, une des potentielles petites amies de Spider-Man. Quoique là, il prend un coup, hein, quand même.
Le problème des scénaristes multiples, c'est qu'ils ont chacun ramené leur petit ami potentiel, et puis finalement, c'est le jeu des chaises musicales, et au final, Peter Parker ne fait rien, si ce n'est un moment où c'était pas de son fait, mais il a couché, semble-t-il, avec Michel Gonzalez, puisqu'il était...
Si, dernièrement, il a quand même couché avec Black Cat.
Ah oui, d'accord, non, mais ça, c'est pas une nouvelle petite amie potentielle, c'est justement un revival, comme tu disais, des années 70-80, quoi. Voilà. Donc, alors, le scénario, l'histoire, le pitch, c'est...
La Mister Négative et ses sbires qui essayent de finir de détruire la Magia pour s'emparer de leur cache, tout simplement.
Voilà. Et mystérieusement, les agents de la Madja, les membres de la Madja reviennent à la vie. Et au fait, on se rend compte que ils ont tous passé un deal avec Mysterio. Et Mysterio
et pas Mephisto. Hein.
Oui. On pourrait même se demander si c'était pas lui au final, qui se cachait sous le costume de Mephisto, parce que au fait, il est passé maître dans l'illusion de la mort, quoi. En gros.
Oui, un boulot qui paie bien, selon lui.
Un boulot qui paie bien, qui l'amuse assez, puisque il fait ça non seulement pour l'argent, mais aussi parce que ça le fait marrer. Et donc il a déjà ressuscité Harry Osborn, plus ou moins, on va dire. Et donc maintenant, voilà, quoi, il se charge des gens de la Madja. Bon, l'arc en lui-même, il y a quelques idées sympathiques, mais sans plus, quoi. Moi, je trouvais ça un peu facile, par exemple, les scènes où t'as le Big Boss, là. Comment il s'appelait, le Big Man, je crois en anglais. Et Spider-Man voit que c'est le Capitaine Stacy, et du coup il commence à dire « Ah, je sais que c'est toi, Mysterio, qui me fait le coup, où te caches-tu » Enfin, ça faisait un petit peu ridicule, quoi, tu vois, ça faisait un petit peu forcé.
Ouais, un petit peu. Ouais. Bon, l'arc est sympa, quand même, voilà, c'est pas... j'ai pas trouvé que c'était une torture à lire, quoi.
Non, c'était pas une torture, mais disons que ça fait toujours un petit peu... par rapport aux autres séries, c'est vraiment... même si c'est assez violent, finalement, c'est quand même assez...
C'est vrai que là, il y a pas mal de sang. Quoi.
Ouais, mais ça reste quand même assez, je sais pas, assez gamin, quoi, par certains aspects, dans les répliques et dans le... Je sais pas, enfin...
Oui, parce voilà, que Spider-Man est le personnage qui parle le plus aux enfants, donc il faut quand même le rendre children-friendly, on va dire.
Ouais, mais justement, je trouve que c'est toujours un petit peu forcé, quoi. Ils essayent de le rendre Sidon friendly sans trop le faire, quoi, finalement, puisque comme tu dis ça reste quand même assez gore
dans cet arc là ouais. Faut avouer aussi que ce qui aide bien pour cet arc, ce sont les dessins somptueux de Marcos Martin.
Mais alors il est parfait pour Spider-Man, hein, franchement. Ah ouais, il arrive à lui donner des poses, il arrive à découper les scènes, à rendre les bastons très fluides. Il y a des splash pages, par exemple quand il est dans le casino au début, c'est vraiment très bien,
c'est vraiment bien foutu, hein.
Bon, il y a juste les personnages, après on aime ou on n'aime pas les personnages réels, au fait, hors costume, qui ont parfois des gueules assez... des gueules de Frampton, quoi, un peu, quoi. je sais pas comment te le décrire mieux que ça, mais voilà, des têtes un peu bizarres, quoi, on dirait des tranches de fromage, parfois.
Moi, je sais pas, moi, ça me dérange pas, quoi.
Mais il a un côté Team Sale, aussi, je trouve.
Un petit peu, ouais, par certains aspects, ouais, effectivement. Bon. J'avais pas vu ça comme ça, effectivement, ouais.
Mais donc c'est globalement, c'est très bon graphiquement. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Bon, que la fin est traditionnelle avec tout ce retour d'ennemis, quoi, encore un qui va être embauché. Voilà.
Oui, voilà, oui. Alors en fait, c'est le gantlet à chaque fois, mais sans être le gantlet. Puisque le principe du gantlet, normalement, c'est d'affronter à la suite vraiment une quantité d'ennemis. Et là, il les affronte certes à la suite, mais pas plus que dans les années 60 ou 70, quoi. C'est-à-dire que à chaque arc, il affronte quelqu'un de différent, mais il les affronte pas réellement à la suite, le même jour, je veux dire.
Non, c'est sûr.
Donc bon, c'est un petit peu prétexte, quoi, à chaque fois ce tag.
Ouais. Bon, on va passer à la suite, hein. Bon, c'est un arc qui se laisse lire quand même que assez sympathique, et voilà. On a deux épisodes ensuite de Tiré des Web of Spider-Man. Le premier tiré du web numéro 4, Fred Van Lanty au scénario, Barry Kitson au dessin. Et donc là, ce sont un retour, en quelque sorte, sur les origines de Mysterio. Beaucoup moins prononcé, je trouve, que certains autres, hein, comme on avait le Rhino ou Electro auparavant.
Bah, là, c'est pas vraiment les origines, c'est une anecdote, au fait, je dirais plutôt. Une anecdote sur sa carrière, un épisode qu'on n'a jamais vu, finalement, puisqu'il est face à un autre personnage Marvel. Enfin... Il rencontre vraiment. Un autre personnage.
Bah, il le rencontre même pas réellement, en fait.
Oui.
Puisqu'en fait, il va voir
son mentor.
Ouais, son mentor, ouais, c'est ça. Celui qui l'a inspiré à devenir un fan d'effets spéciaux.
Ouais. C'est pas mal, ça. Et d'ailleurs, c'est vraiment dommage.
Tu as vu l'hommage, d'ailleurs, de ce personnage. Enfin, je sais pas, tu l'as peut-être pas vu, remarque.
J'ai peut-être oublié aussi.
Le personnage de son mentor s'appelle Ray Bradaus. Et c'est donc un hommage à Ray Harryhausen, qui est le maître SF spéciaux Voilà, quoi, c'est le plus grand. C'est quand même quelqu'un qui a fait des films comme Jason et les Argonautes, Le Choc des Titans, Les Sinbad, 1 million d'années avant Jésus-Christ. Enfin, voilà, au niveau de l'animation à l'époque, c'était le grand maître. Et
C'était le
puis,
grand maître, et là,
en
en
même
fait,
temps.
on apprend vraiment le making of, j'ai envie de dire,
Ouais,
voilà, ce
alors.
qu'est le making of réel de ces films, quoi.
Un
C'est
hommage,
assez
voilà,
drôle.
c'est ça. C'est un hommage assez étrange parce que finalement, voilà, son meilleur coup, c'est un pacte, quoi.
C'est un
C'est un
pacte avec qui, alors, on vous laisse la surprise. Mais alors, j'ai trouvé ça intéressant,
petit.
ce petit épisode, parce que je me suis dit, il aurait fallu ensuite que dans l'arc de Slott, on nous reparle du mentor de Mysterio et qu'on parte là-dessus.
On
Et
en
au fait,
reviendra,
pas du tout.
on y reviendra peut-être plus tard, sait-on
Ah,
jamais. Sait-on jamais.
oui, bon, j'espère en tout cas, j'espère, parce que ça pourrait être intéressant. Il pourrait y avoir des choses à dire, des histoires à
L'hommage
raconter là-dessus.
s'arrête pas là, hein, de plus, hein, puisque, comme je disais, c'est Ray Harryhausen, mais c'est aussi Ray Bradbury, d'où le nom Brad House,
Ouais.
puisque Ray Bradbury et Ray Harryhausen étaient des grands potes dans la vie. Donc voilà, c'est vraiment un double hommage, ces deux maîtres, chacun dans leur spécialité, quoi. Et j'ai trouvé ça très sympa de la part de Fred Vermonti.
Et puis pour une fois, il ne change pas du tout les origines du vilain, puisque c'est
Non,
vraiment un
du tout.
truc en plus, quoi. Voilà.
Mysterio essaie de percer le secret du plus grand effet spécial qu'il a jamais réussi à découvrir. Et effectivement. Voilà.
Non, mais c'était marrant. Et
Voilà.
j'espère qu'on en verra plus là-dessus.
Ben moi, je retiens juste pour cet hommage, en fait, hein. C'est vraiment cet hommage-là que je retiens le plus. Voilà. Le deuxième épisode, c'était donc tiré de Web of Spider-Man numéro 2, cette fois-ci. Tom Payer au scénario, Javier Rodriguez au dessin. Et là, on a Jameson qui est enlevé par un fan. Un fan de son époque Bugle, et on a une merveilleuse double planche où Jameson est ligoté et voit à quel point son fan est complètement fou,
Oui.
qui a mis toutes les unes du Bugle, et cette double page est magnifique, je trouve.
Oui, et puis très marrant, puisque il y a essentiellement, évidemment, sans doute du Spider-Man, quoi.
Oui, puisque en fait il est fan de Jameson. Quand Jameson est contre Spider-Man, voilà, c'est ça qu'il collectionne, et voilà, il veut être en tandem avec lui, il veut qu'il retrouve cet esprit de revanche sur Spider-Man, et voilà. Bon,
Ouais.
après, à part ça, l'épisode est nul.
Oui, alors au moins il a le mérite de ne pas nous avoir refait le coup de le fameux type qui arrive et qui pense que Jameson est Spider-Man. C'est déjà arrivé, ça.
Ouais.
Plusieurs fois, donc voilà. Au moins c'était différent, voilà, cette fois-ci.
Voilà, bon, à part ces doubles planches, moi franchement l'épisode m'a fait chier.
Ouais, moi aussi. Franchement, je l'ai lu très vite parce que bon, c'était pas ce qui est le plus passionnant. En même temps, c'était un petit peu bouche-trou, puisqu'il fallait combler les pages restantes du magazine.
Bon
Sinon,
bah, on va passer à la suite, hein, et on va attaquer le gros morceau du mois, la partie Avengers avec la fin de Siege. Et on commence avec Siege numéro 4, au scénario. Brian Bendis, ah oui, Siege numéro 4 avec le premier épisode, Siege numéro 4. J'ai oublié de préciser quand même.
exactement.
Bendis au scénario, Olivier Coipel au dessin, Marc Morales à l'ancrage. Et c'est la grosse baston contre Sentry, le grand
Enfin.
méchant.
Ouais, alors justement, la grosse baston, j'ai envie de te dire, pas vraiment, quoi.
Oui, c'est
Vite
beaucoup trop
expédié, la grosse
facile.
baston.
C'est très facile. La fin est vraiment très facile. Il y a quand même le twist, c'est le retournement de Loki et son sacrifice.
Ouais, alors ça m'a étonné. Au fait, finalement, tu vois, c'est vraiment la surprise parce que je ne m'y attendais pas. Je sais pas si toi, tu le
Ah,
savais.
pas du tout. Pas du tout. Enfin, si, je savais que Loki était mort, mais voilà, la façon qu'il se retourne, c'est totalement inattendu. Et bon, après, il y aura d'autres explications, on y reviendra tout à l'heure, dans les autres publications de ce mois-ci. Mais bon, c'est vrai que voir Loki retirer le pouvoir des pierres normes ou des pissons gangs pour le donner aux Avengers qui finalement sont tous tombés au combat, donc ils sont tous morts et ressuscités, on dirait. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça semble.
Oui, ça c'est bizarre. C'est
Et
vrai que ça c'est
puis
bizarre.
son sacrifice, et puis voilà, et puis après cette fin. Alors un truc bizarre, Thor dans l'espace, ça m'a fait vraiment bizarre.
Ouais.
Je sais
Oui,
pas, le voir se balader.
je ne sais pas, je connais pas assez le personnage pour
Mais
savoir
ouais, mais
si
enfin.
c'est normal.
Mais je sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas, ça m'a fait bizarre. Il y a un côté Superman qui est donné à Thor qui me. Je sais pas. Bon, en même temps, c'est un dieu, donc soit-il besoin de respirer. Je sais pas, mais le voir se balader dans l'espace comme ça, aller au soleil.
Bah, c'est un peu facile parce que s'il peut faire ça, pourquoi est-ce qu'il élimine pas à chaque fois ses ennemis constamment comme ça, quoi?
Bon là il était vraiment vraiment énervé avec la chute d'Asgard.
Oui,
Donc
c'est vrai, il piquait sa queue.
solution radicale, quoi. Mais bon, voilà. Bon, par contre, Coipel se lâche au dessin, c'est magnifique.
Ouais,
Ça, alors, c'est
c'est super.
superbe. Franchement, cette dernière partie est superbe, je trouve.
Non, mais graphiquement, c'est très très bon. Par contre, voilà, on pouvait s'attendre à ce que Sentry passe l'arme à gauche, ce qui est dommage, puisque je pense, moi, à mon sens, le personnage n'a jamais été aussi intéressant que dernièrement. Voilà, t'es pas d'accord. Ils lui ont
Ouais,
donné
enfin
quand même
bon.
une nouvelle dimension que je trouvais exploitable, et bah finalement non, ce sera pas exploré.
Moi, c'est un personnage dont je me tape, mais alors. Je m'en suis toujours foutu de Sentry, voilà. Personnage qui n'a jamais servi à rien. Et quand il a servi à quelque chose, c'était pour faire des conneries, donc voilà. Moi, je veux dire, tant mieux, quoi. Tant mieux qu'on se débarrasse de ça, parce que de toute façon, on n'est pas capable chez Marvel de gérer un personnage trop puissant. Donc voilà, on dégage quoi. Chez DC, ils arrivent à gérer un personnage comme Superman avec.
Enfin, ils font marcher, hein.
Oui, en ce moment, oui, mais enfin.
Ils nous font marcher aussi.
Je veux dire, ils ont réussi à gérer Spider-Man depuis 1938, quoi. Avec des hauts et des bas, mais le personnage existe toujours et marche, toujours. Enfin, marche, oui, sans jeu de mots. Voilà. Continue de fonctionner en tout cas.
Oui.
Et un personnage comme un équivalent de Superman chez Marvel, ça fonctionne pas du
Ouais,
tout.
enfin bon, c'était surtout la dimension schizophrène, psychopathe, enfin tu vois, c'était quand même.
Mais il a fallu le rendre comme ça pour le rendre intéressant, quoi.
Et puis aussi rétroactif, parce que finalement il n'existait pas, et puis au fait
Mais
il
bon,
existe, quoi. Enfin, bon.
ça, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a fait un peu pitié, mais.
Bah. Voilà, il y avait une démarche intéressante. Bon, après dans l'exécution, c'était peut-être pas top. De toute
Après,
façon.
libre à chacun de penser comme il veut. Moi, je sais que c'est quelque chose auquel je n'ai jamais accroché, quoi. Donc après, bon, bah, dommage pour ceux qui aimaient ce personnage, c'est sûr. Moi, je trouve que ce sera pas une grosse perte, quoi. Parce que finalement, voilà. Rappelez-vous depuis le moment où il est arrivé, à quoi il a servi, et faites le pour et le contre, quoi.
Justement, on en parlera tout à l'heure, mais donc, siège embed,
Siege Embedded numéro
embedded,
4. Brian Reed au scénario, Chris Samnee au dessin. Bah, je trouve que cette fin est meilleure que celle de Siege, en fait.
ouais, bah, enfin, de toute façon,
Malheureusement.
c'est la série qui est la meilleure à chaque fois des deux, quand même.
Voilà, ça paraît presque plus épique, puisque Ben Urich n'est qu'un humain. Et il y a une dimension beaucoup plus épique dans ce dernier épisode de la mini-série que dans Siege. Puisque Siege, on s'attend à ce que ça se termine comme ça.
Ouais, alors que là, on sait pas.
Alors que là, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Et finalement, voilà, on a un Ben Urich qui est
Bah,
magistral, quoi,
le
qui
nouveau
essaye
Captain
de,
America.
ouais, voilà, qui essaye de
Merci.
voler au secours de tout le monde, qui protège les gens et qui met une patate à Keller. Une patate magique, je trouve. Où il se
Mais
fait mal à la main, d'ailleurs.
justement, on
C'est
peut le
assez
dire,
drôle.
hein, ce sera le nouveau Captain America.
Donc voilà, bah, tout est bien qui finit bien, on va dire, dans Embedded. Ce qui est plutôt pas mal, hein.
Étonnamment, ça finit même mieux que je pouvais le penser.
Oui, puisque ce fameux William, hein, on pensait qu'il passerait l'arme à gauche, pas du tout.
Non.
Alors, est-ce un personnage qu'on reverra?
Bah j'espère.
Il y a
S'il y a...
potentiel, il a été embauché au frontline, mais je pense que Reed le tient bien, donc il faudrait peut-être que ce soit Brian Reed qui l'écrive.
En tout cas, justement, je t'avais dit, Brian Reed, c'est vraiment un auteur qui est surveillé et à chaque
Bah,
fois, je trouve qu'il fait des petites prouesses.
il est capable du pire comme du meilleur, quoi. Puisque Secret Invasion, enfin Frontline Secret Invasion était pas très bon quand même.
Ah, c'était lui déjà?
Eh oui, c'était lui.
Ah oui, d'accord. Donc, effectivement.
C'était assez moyen, enfin,
Ouais, c'était pas
franchement.
terrible, c'était pas terrible.
Ça
Mais par
partait
contre,
bien et puis.
il avait fait une mini-série Captain Marvel que j'avais trouvée excellente.
Donc voilà, bon bah bon épisode, bonne fin malgré tout, hein, ça reste sympathique, ça reste une bonne surprise, Siege. Beaucoup mieux que ce à quoi je pouvais m'attendre au départ, donc
Ben
j'en
ouais, enfin,
suis
c'est la baston
relativement
finale.
content,
Bon,
ouais.
enfin, cela dit, je trouve que la dernière partie est quand même en dessous du reste, hein.
Ouais, un peu vite expédié. Et puis bah on verra quel
Quelles sont les
avenir pour
conséquences?
tous ces personnages-là dès le mois prochain avec le départ du fameux Heroic Age.
Et ça se terminait quand même sur le fait que Captain America a d'ailleurs demandé une faveur.
Ouais, au président.
Voilà.
Et cette faveur,
On va le voir, on va en parler de toute
on
façon.
va voir tout de suite ce que c'est au sein de Dark Reign numéro 16. Dernier épisode du dernier magazine, en fait, s'appelait Dark Reign, puisqu'il disparaît ce mois-ci. Le mois prochain, un nouveau mag. Les deux premiers épisodes, ce sont Thunderbolts 142 et 143. Jeff Parker au scénario, Wellington Alves et Nelson Pereira pour le 142, et Miguel Sepulveda pour le 143. Donc là, ce sont les deux dernières parties d'Ain't Siege. C'est beaucoup de baston,
Et beaucoup.
mais super intéressant.
Et très drôle, quand même.
Ouais, très drôle, ouais.
Alors, en gros, c'est surtout les Mighty Avengers qui sont opposés aux Thunderbolts.
Exactement, ouais. Et alors, la façon dont Amadeus Cho se bat contre Mister X, c'est génial. La façon dont il arrive à le berner, c'est génial. D'ailleurs, Mister X se fait berner à chaque fois, hein, dans ces
Ouais.
épisodes, mais les deux façons sont très inventives, mais j'ai une petite préférence pour celle d'Amadeus Cho. Mister X, étant télépathe, peut prévoir les coups puisqu'il arrive à lire les pensées. Et justement, Amadeus Cho joue avec ça, il fait des calculs tellement complexes que l'autre n'arrive pas à les comprendre. Et enfin voilà,
Oui, il ne sait
c'est
pas ce que ça
super
veut dire,
inventif,
donc du
quoi.
coup, de toute façon, il peut les lire, mais il ne le sait pas. Il ne sait
Ouais.
pas quelles sont les significations de tout ça, quoi.
C'est super inventif, je trouve. Vraiment, très très bonne idée de la part de Jeff Parker, là.
Oui, non, mais de toute façon, c'est vraiment très drôle. Et cette équipe de Thunderbolts va me manquer quand même, puisqu'on sait qu'elle va changer, ça va plus être exactement la même équipe. Et c'est bien dommage, parce que Mister X était un petit peu Johnny Cage de Mortal Kombat,
Ouais,
avec ses vieilles lunettes
moi
de soleil.
j'avais une préférence quand même pour l'équipe quand elle se faisait pas battre à plate couture à chaque épisode. Parce que ça devenait un petit peu lassant, puisqu'on savait très bien qu'ils allaient se faire bastonner et jamais réussir leur objectif, quoi. Depuis que.
Ouais, c'est vrai que bah, enfin, de toute façon, c'est
Mais
sciemment,
depuis
Norman Osborn a mis
que.
des
Ouais.
gens ensemble qui vont pas du tout, quoi.
Bah, en fait, c'était. Pour moi, la série a baissé un peu depuis que Norman Osborn a quitté la tête de l'équipe, quoi. Et une petite baisse
Ouais.
quand même.
Ouais, encore, et encore.
Non mais il y a des bons épisodes, mais je trouve qu'il y a une petite baisse malgré tout. Là, c'est vrai que je préférais quand Warren Ellis était au scénario.
Moi, j'ai bien aimé Deagle, surtout, le passage de
Ah
Deagle.
oui, Deagle, oui, j'avais oublié le passage de
J'ai
Deagle, qui
trouvé
était très très
supérieur
bon.
à celui de
Ouais.
Warren Ellis. Le
Le
coup
passage
dans l'avion et tout,
ouais,
enfin,
passage Deagle était très très bon, oui, c'est vrai, j'avais déjà oublié ça, effectivement.
ouais.
Ah, merci
Donc,
de me le rappeler. C'était une bonne époque, ça aussi.
Jeff Parker a vraiment repris tout récemment, finalement.
Ouais, avec un premier épisode qui était un peu pourri, mais après.
Ouais, mais ensuite, bon, voilà, quoi, le temps de prendre les personnages bien en main. Et
Bon bah là c'est la bataille pour la lance, hein, de toute façon. Cette
ouais.
fameuse lance d'Odin qui sont venus chercher et tout le monde essaie de la récupérer. Alors bah, la plupart des... Enfin non, la plupart, non. La partie des Thunderbolts qui est acquise à Norman Osborn essaie de la récupérer pour l'amener à leur chef. L'autre partie des Thunderbolts qui sont Ant-Man et Paladin essaie de la récupérer pour pas qu'elle tombe entre les mains d'Osborn justement. Et les Mighty Avengers essaient de la récupérer pour pas qu'elle tombe entre les mains d'Osborn aussi.
Voilà.
Voilà, chacun essaie de faire le truc. Il y a vraiment des bonnes répliques un peu partout. Les échanges entre Ant-Man et Stature sont assez drôles.
Ouais, et puis même il y a ce combat qui finalement semblait assez évident, US Agent contre Nuke.
Oui. Et
Contre Mister X
ouais.
qui enfin Jason le mort-vivant quoi, on va dire.
Non, Mister X, c'est pas le même.
Ah non, t'as raison. Comment s'appelle-t-il? Ah, Scourge, voilà.
Scourge, voilà. Ouais.
Jason, on va dire.
Y a une scène aussi assez dégueu, je trouve, hein, qui m'a vraiment choqué. C'est Ant-Man qui rétrécit au point d'aller dans l'oreille de je ne sais plus qui et qui lui éclate le tympan avec un coup de
Oh oui,
serrette. J'ai trouvé
exactement.
ça ignoble comme scène.
Ouais, c'est assez crade et franchement, on imagine bien la douleur que doit ressentir. Bah, et puis même la manière dont Mister X se fait exploser à la fin. Je crois que c'est Mister X qui se fait casser en morceaux là.
Ah bah par Quicksilver, ouais. C'est
Ouais.
pareil, ça aussi très inventif, puisqu'il peut lire les coups, mais il n'a pas le temps de réagir.
Ouais.
Donc,
Mais c'est
voilà.
très gore, quoi. C'est quand
Ah,
même très
ah,
graphique.
il le laisse en piteux état. Hein. Franchement, les doigts tous brisés, les jambes, les genoux.
On a mal pour lui.
Moi, je trouve qu'il a qu'est-ce qu'il mérite. Donc, ça m'a pas dérangé. J'ai vraiment été beaucoup plus dérangé par cette scène dans l'oreille, quoi, que je trouve très, très réaliste, en fait. Et c'est un moyen très retors encore d'utiliser un pouvoir à fond. Donc voilà, Jeff Parker a des idées glauques aussi.
Des idées glauques, mais en même temps elles font bouge, voilà, c'est vraiment bon.
Il
Difficile de
y a le
distinguer les
personnage,
deux.
oui, il y a le
Ouais.
personnage de Ghost hein,
Ah oui.
qui joue dans les deux camps en fait. Et on a vraiment du mal à le placer celui-ci. Il marche vraiment au plus offrant, c'est vraiment le mercenaire, quoi.
Mais globalement, voilà, on a du mal à distinguer les deux épisodes, tant c'est la même chose, quoi. Vraiment, c'est cette
Non
bataille
mais
pour la
sincèrement.
lance. Mais alors
Tiens.
quand même, il y a juste le final qui me dérange énormément. Parce que ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe.
Ouais, c'est annoncé un peu trop tôt, je trouve.
Bah, c'est surtout que ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est d'un seul coup, c'est tu vois un personnage qui n'a rien à voir avec les Thunderbolts qui te dit ah, j'ai oublié de faire les courses, je reviens. En gros, c'est ça, quoi. Oula, je t'ai
Ouais.
perdu, Steve.
Ouais, non, enfin, c'est le coup de faire les courses, j'étais en train d'essayer de me rappeler. Mais.
Non, mais je dis pas ce qu'il fait, justement, ni qui
Oui,
il
non,
est,
enfin,
il dit autre chose, quoi.
qui dit qu'il va prendre le lead de l'équipe, quoi.
Ouais.
Ce fameux personnage.
Oui, voilà.
On dira pas qui c'est. Oui, bah moi je suis moins partant de cette idée là aussi. Hein. Bon, on verra bien, je vais laisser la chance à la série que je n'ai pas lu en VO, hein,
En
cette
plus,
fois c'est en
c'est un
échangé.
personnage qui est déjà exploité dans une autre série, donc
Mais oui, voilà, vu qu'il est même trop exploité d'ailleurs, mais bon
même trop
après.
exploité en ce moment, et
Voilà,
je vois pas
comment peut-il
pourquoi
avoir le
lui
top?
plus qu'un autre, quoi.
Bah parce qu'il a le vent en poupe. Voilà, il a le vent en poupe depuis l'ère Bendis.
Ouais.
Voilà.
Et pourtant,
Non,
moi,
non.
il me laisse toujours autant.
On a quand même des personnages qui s'en sortent, certains mieux que d'autres. On a un paladin qui s'en sort plutôt sympathiquement, qui devient une sorte de Bruce Banner aéré sur les routes. J'ai trouvé ça sympa.
Ouais, non, mais il y a pas mal de choses comme ça.
Voilà. Et
Ils ont
puis.
ils sont tous vraiment très charismatiques et cette équipe, franchement, va me manquer.
Enfin bon, la série n'est pas terminée, elle prend une nouvelle direction. Espérons que cette direction soit aussi bonne
Ouais,
que ce
c'est
qu'on a lu quand même.
quasiment un nouveau volume quand même, parce que ça va quand même changer pas mal.
Mais
Donc,
bon,
surprise, composition. Ouais.
quand on sait qu'il y a dans l'équipe, ça peut être qu'intéressant.
Ouais. Non, mais les épisodes que j'en ai lus, en tout cas, étaient
Enfin,
vraiment pas mal.
pas intéressant, intrigant, nuance. Je rectifie puisque je l'ai pas lu, donc je peux pas dire si c'est intéressant ou non. Et si vous voulez savoir par avance ce qui va se passer, eh ben reportez-vous au Comics Weekly, les premiers, Benny nous en avait parlé.
Je vais chroniquer quelques épisodes des Thunderbolts 2, je crois. Et c'était pas mal.
Allez, on passe à l'épisode suivant, c'est le Dark Avengers numéro 16, Bendis au scénario, Mike Deodato au dessin. Et c'est la suite directe de Siege numéro 4, avec l'arrestation d'Osborn et tous ces sbires des Dark Avengers. Puis bah, tout l'Heroic Age qui se met en place, quoi.
Ouais, c'est assez énervant quand même. J'ai trouvé ça assez énervant, cette manière de... D'arrêter les vilains. Moi, je les aimais bien, ces Dark Avengers. J'aimais bien le Dark Reign, donc, revoir en plus tous ces gens qui finalement, ils ont pas été mis tant à mal que ça durant le Dark Reign, quoi.
Ouais, c'est peut-être un peu le problème aussi.
Finalement, tu vois, à l'époque de Civil War, c'était vraiment le boxon. Bah, Civil War, c'était plus un Dark Reign que ça, quoi. Finalement, ils ont pas eu tellement de problèmes.
Et bah
Donc,
d'ailleurs.
c'est un faux retour des héros, je trouve. C'est-à-dire que tous ces héros qui les arrêtent à la fin, finalement, ils étaient là, quoi, déjà depuis longtemps. Le seul vrai retour récemment, c'était celui de Captain America.
Ben, c'est le retour des héros aussi, puisque tu parlais de Civil War. Bah Cap fait abolir cette loi de la Superhuman Registration Act.
Voilà.
Je vais te la refaire. De
Non,
la
non,
du
je la laisse là,
Superhuman
merci.
Registration Act. Oui, j'ai essayé d'avaler en même temps, ça n'a pas marché. Donc du coup, voilà, c'est les héros ne sont plus arrêtés à vue, quoi. Ils n'ont plus besoin de se démasquer devant le gouvernement et bah, les choses vont pouvoir reprendre leur cours.
Oui,
Donc
de décliner leur identité secrète, tout
Fini,
simplement.
fini de se cacher pour les New Avengers qui refusaient de se déclarer au gouvernement.
Mais remarque, ça commençait à faire longtemps, et même, on avait presque oublié, tu vois, qu'elle était en place, cette loi. Franchement, tu me demandais, moi, je savais même plus si encore elle était active ou pas. Tu vois, à
Ouais, c'est
force.
vrai, ouais.
Donc la menace était plus autant palpable qu'elle ne l'était à l'époque. Moi, c'est vraiment un retour un peu forcé, je trouve, au statu quo. Bon, bah voilà, on repart à zéro, quoi, en fait. On repart totalement à zéro.
Il y a l'évolution pour Steve Rogers qui devient le commandant général de bah, qui prend la place d'Osborn en finale.
Le nouveau général manager de Raw, moi, je dirais.
C'est
Non, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça.
la
C'est-à-dire
place
que,
de ouais c'est non mais c'est ça. Hein.
depuis quelques années, Marvel fonctionne comme une fête de catch. D'ailleurs, je devrais faire un article dessus, mais à chaque fois, j'ai pas le temps. Mais en gros, c'est assez marrant parce qu'au début, on avait Nick Fury, et puis quand même, on a eu Maria Hill, on a eu Tony Stark,
Tony Stark,
Norman
évidemment.
Osborn, et maintenant Steve Rogers, et tout ça en l'espace.
Captain Steve Rogers,
Oui,
attention.
oui, oui. Et tout ça en l'espace de 5 ans, à mon avis, on en a quasiment un par an, quoi. Donc
Ouais, ça revient à peu près
c'est
à
assez
ça, ouais,
marrant.
effectivement.
Ouais, bah ouais, comme tu dis, Steve Rogers, alors, où ça va nous mener? Est-ce que ça va changer grand-chose? Bah, à voir. Dès le mois prochain.
Et mois prochain. En tout cas, bon, moi je trouve que c'est un bon épisode. On
Alors,
a quand
attends.
même cette fin. Ouais.
Attends. Je sais pas toi, mais je trouve vraiment les dessins de Deodato de mieux en mieux.
Ah, ils
Là,
étaient beaux, hein.
franchement,
C'était
et
beau, hein.
à
Magnifique.
la fin, je sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il a utilisé un autre procédé, est-ce qu'il a utilisé un petit peu l'ordinateur, alors je sais qu'il y en a qui aiment
Il a
pas, mais...
peut-être eu un peu plus de temps aussi.
Il y a peut-être eu un peu plus de temps, il a peut-être, je sais pas, fait un autre travail, est-ce qu'il y a eu un autre encreur? Non, je crois pas.
Non, non, c'est lui qui s'ancre toujours.
Voilà, bah oui, en plus, donc je sais pas, mais en tout cas, à la fin, son Norman Osborn, enfin, les quelques scènes finales, même la scène d'arrestation, c'est de plus en plus beau au fil des pages, je trouve.
Et on a, comme je disais, cette scène avec Osborn. ce monologue intérieur, enfin même un dialogue finalement, puisque c'est un dialogue entre lui et le gobelin, très intéressant, et cette fin sur ce qu'Holtzborn dit au gobelin est très intéressante. Et serait-ce une nouvelle évolution pour le personnage de Norman Osborn? On verra bien. En
Alors
tout
là, j'ai
cas,
pas repéré là. Qu'est-ce
j'attends de
que
voir.
tu as vu de
Bah, il
justement.
rejette totalement le gobelin.
Ah oui, enfin oui, mais enfin bon, il a toujours une personnalité un petit peu comme ça avec le Goblin. Mais moi, ça m'a surtout rappelé, en fait, moi j'ai pensé que Bendis continuait un petit peu ce qu'avait amorcé Warren Ellis dans les Thunderbolts, quoi. Il y avait cette espèce de Goblin à chaque fois qu'il lui parlait, et puis voilà, on sentait qu'il était vraiment perturbé.
Pareil, on y reviendra tout à l'heure, ça aussi, sur le...
Il y a juste, au fait, dans la version française, un petit mot de Bendis, au fait, une page de Bendis, où, bah, au fait, il explique qu'il était, bon, qu'il est triste d'arrêter Dark Avengers.
Alors, ils ont traduit cette page. Oh
Ils
bah,
ont
ça, alors,
traduit
c'est
cette
bien la
page.
première fois, tiens.
Ouais, ils ont traduit cette page. Ils ont traduit une page de Bendis. Alors, il explique qu'il est triste de quitter les Dark Avengers, mais aussi qu'il était très surpris. Alors, selon lui, alors moi, pas du tout, par contre. Il était très surpris qu'une série où Norman Osborn est le héros puisse fonctionner autant, et que ce soit l'un des tops des ventes de Marvel. Bon, moi par contre, ça fait de nombreuses années que j'attendais qu'effectivement Norman Osborn ait son titre, quoi, entre guillemets.
Ben,
Et
moi,
je
je suis.
pensais que ça allait vraiment fonctionner si ça arrivait, et puis bah c'est arrivé, enfin.
Là, je suis sur le cul, tu vois, qu'ils aient traduit cette page. Donc, comme quoi, ils traduisent la page de Bendis, quoi. Enfin, Panini a.
Mais c'est bizarre,
Disons,
ils avaient
Panini a un gros parti pris, quand même.
ouais. Et puis bon, alors il
Alors.
essaye de faire de l'humour, il termine en disant et les cheveux d'Osborne, bah en fait c'était des carambars, ouais.
Est-ce que ils nous traduiront peut-être ce fameux roman qu'il y a actuellement dans les pages
Alors ça, je
de toutes les
doute
séries
énormément.
Avengers?
Je
Cette page-là.
doute énormément. Tu vois, ça serait sorti en 100% Marvel, je te dirais peut-être. Ou bien alors ils vont peut-être l'intercaler dans un 100% Marvel Avengers, même si ça n'a rien à voir, quoi. Du
Peut-être,
style
ouais. Avengers Prime ou un truc comme ça.
ou alors le truc de Joe Casey, là, tu sais, qui explique les origines aussi.
Bah ouais, enfin ils ont déjà publié tout, hein.
Ah oui, d'accord, donc il n'y en a pas un autre volume.
Ah, quoi qu'il y a eu un Avengers Origins, je crois, je ne sais plus. Enfin,
Ouais.
il en sort tellement, honnêtement, préparez-vous à une avalanche d'Avengers, puisque si vous avez l'impression qu'il y avait beaucoup de séries Avengers avec Dark Reign, il y en
Bah
a
en fait,
encore
il y en a.
plus avec Rogue Age.
Il y en a tout autant quasiment.
Il y a vachement plus de mini, je trouve.
C'est vrai, il y a des mini, mais bon, mais enfin, dans les années à venir, il y a surtout ce film. Donc forcément.
Ouais, et on n'a pas fini d'en bouffer, effectivement.
Ouais.
Oui, sinon, bah, ce qu'on a oublié, c'est Captain Steve Rogers qui va recruter un des membres d'Osborn, on ne dira pas lequel, pour travailler avec lui.
Alors ça, c'est vraiment du Bendis. Voilà, c'est un indice déjà.
Voilà. Allez, on passe au dernier épisode du Mag, c'est le Secret Warriors numéro 16. Jonathan Hickman au scénario, Gianluca Gugliotta au dessin.
Déjà épisode 16, et moi justement à la lecture de cet épisode, je me disais, mais quand même, il s'est pas passé grand-chose finalement.
Non, mais moi je suis un peu perdu, hein, honnêtement. Je
Ces
commence à
derniers
être de plus
temps.
en plus perdu dans cette histoire.
Oui, en fait on ne sait pas, on va résumer très vite, mais on ne sait pas vraiment qui fait quoi et qui protège les intérêts de qui et pourquoi ils font ça, enfin voilà.
Eh bien, on est dans une série d'espionnage, quoi, mais peut-être poussé un peu trop loin, finalement.
Oui, c'est-à-dire que tout le monde espionne, quoi. C'est tout le monde s'espionne mutuellement et au final, on sait plus qui fait quoi.
Bah, on a vraiment la rencontre entre l'Hydra et le Léviathan, puis bah, le torchon brûle entre les deux, hein.
Ouais, en fait, c'est ça, quoi.
Ils se
L'essentiel de
cassent la
l'épisode,
gueule
c'est une baston.
mutuellement. Voilà, ils se cassent la gueule mutuellement, et du coup, Nick Fury décide d'en profiter. Et d'attaquer maintenant, puisque les deux forces sont affaiblies, autant profiter pour éradiquer les deux. Après tout, il a raison. Bon, on a quand même
Bah, un twist.
un traître dans l'équipe.
Un
Alors, qui
traître dans
c'est?
l'équipe, ça faisait longtemps, alors là,
Qui c'est?
il en
Et
fallait un.
pourquoi? Surtout,
Bah
pourquoi
surtout,
est-il un
oui,
traître?
pourquoi? Parce que qui sait, on peut le deviner quand même.
Ouais, les raisons du
C'est
pourquoi.
logique, quoi, que ce soit lui. Dans la mesure où. Bah je vais pas le dire, sinon on voudrait
Oh.
vraiment savoir qui c'est. Mais c'est quasiment annoncé, on va dire.
Oui, bah oui, bien sûr. Par contre, ça se demandait pourquoi Phobos n'a pas vu ça quand il a exploré le futur de tous les personnages.
Ou bien alors il veut pas le dire parce qu'il a une dent contre Fury. Et je sais pas.
Ou alors il l'a dit à Fury, et Fury est au courant, et c'est ce qu'on va nous annoncer.
Ouais.
Enfin bref, on peut faire tout un tas de suppositions. L'autre page intéressante, c'est quand même cette fameuse réunion entre Nick Fury, Dum Dum Dugan et les autres à la table du Zodiac. fameuse organisation du Zodiac dont on nous avait parlé dans le premier épisode, et qui n'avait pas été traduit en français, là, cette fois-ci, alors que ça, c'était quand même sacrément utile, toutes ces pages-là, et donc, on les a pas eues, et là, on a des gens à cette table du Zodiac. Donc, pourquoi, comment, j'espère qu'on aura une réponse.
Voilà. Les chevaliers du Zodiac de la table ronde.
Un épisode qui complique encore un peu les choses, malgré tout. Ça devient de plus en plus dur de suivre cette série, honnêtement.
Ouais, c'est très
ça devient un calvaire.
Ouais, en même temps, c'est quand même une suite de bastons et de retournements de situation qui fait que je pensais vraiment au début que ça avait vraiment du potentiel et puis non, en fait, au début, j'accrochais pas aux personnages, mais à force, tu vois, je les connais maintenant, mais je sais pas, ça part un petit peu trop dans tous les sens.
Mais, je veux pas être méchant, mais moi, c'est une série qui me déçoit de moins en moins, en fait.
Ouais.
Plus on avance et moins je m'y intéresse et plus ça devient chiant à lire et plus je me dis oh putain j'ai encore ça à me taper.
Et de toute façon on sait qu'elle va disparaître.
Oui, enfin c'est pas tout de suite hein. On a largement le temps encore. On a un an d'épisode où ça s'arrête au 30, je crois.
Ah oui. Oui, ouais, d'accord. Je crois que c'était 25.
Non, ça s'arrête, je crois, au 30.
En tout cas, il y a une fin annoncée.
Oui, enfin, ça sera peut-être remplacé par quelque chose d'autre. On n'a pas encore eu le fin mot, parce qu'on sait que ça s'arrête au 30, et il y a le 26 qui est sorti aux States, donc voilà, il nous reste encore 4 mois d'épisodes de Secret Warriors. On va peut-être nous annoncer une future suite d'ici là.
Secret Warriors, Agents of Something.
Écrit par Jeff Parker.
Voilà.
Allez, on change de mag, on va passer au premier hors-série de l'année. Le Marvel Icons hors-série numéro 20.
Ah, le chef-d'œuvre de l'année.
Alors, est-ce un hors-série qui vaut le coup ou pas? Vous allez avoir la réponse tout de suite. On a 5 histoires dedans, toutes taillées à Siege, d'ailleurs ça s'appelle Siege, avec le nom d'un personnage. La première histoire, c'est Siege Loki, écrit par Kieron Gillen, Jamie McKelvey au dessin, donc Kieron Gillen, scénariste de Thor. Donc là on se dit déjà, ah, qui sait, il y aura peut-être du potentiel. Et là, on répond à une bonne partie du plan de Loki, avec cet épisode-là.
On comprend pourquoi en fait.
Ouais, voilà, il explique un petit peu pourquoi Loki a fait certains choix et Loki fait un pacte avec Mephisto.
Tiens donc, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu.
Parce qu'il veut annuler son mariage. Non, je déconne. On sait jamais. Avec Mephisto, on sait jamais. Puis ouais. Avec Ella et enfin voilà. Bon. Il y a pas mal de petits trucs et s'en sort. C'est peut-être le truc le plus intéressant de tout Snag. Le pourquoi il a fait ce pacte avec Mephisto pour aider Ella, et qu'est-ce qu'il va avoir en retour avec Ella. Et on comprend peut-être un peu mieux cette histoire de sacrifice dans Siege 4 avec ça.
Ella, c'est le drame.
C'est, ouais.
Ouais, d'accord. Ouais. On va passer à Secret Avengers.
La grosse question, c'est où ça mène. Mais l'avantage, c'est que c'est Gillen qui écrit, donc il va peut-être se resservir de tout ça dans sa série, quoi. La suite, c'est Siege, Secret Warriors, Jonathan Hickman au scénario, Alessandro Vitti au dessin. Donc là, encore une fois, le scénariste régulier qui s'occupe de ça. Là, c'est pareil, c'est ce qu'il advient de Phobos pendant que les autres, l'équipe de Nick Fury, est partie se battre sur Siege, puisque Nick Fury ne voulait pas amener Phobos là-bas.
Donc Phobos décide de se rebeller.
Ouais, voilà, il décide de s'en prendre à celui qui est responsable de la mort de son père, en tout cas celui qu'il pense être responsable de la mort de son père. Je vais pas le dire, hein, ça laissera encore un tout petit peu d'intérêt pour cet épisode-là, qui finalement ne sert pas à grand-chose.
Voilà, ensuite c'est le Siege Spider-Man.
Ouais, écrit par Brian Reed, au dessin Marco Santucci. Et ben alors là, c'est les deux amours de Brian Reed, hein, Spider-Man et Miss Marvel, qui sont en tandem face à Venom. Et avec une pseudo-romance possible, encore une fois.
Ouais, qui mènera à rien, forcément.
Mais qui mènera à rien, mais voilà, Brian Reed, c'est lui qui a écrit tout le volume 2 de Miss Marvel. Donc voilà, c'est un personnage qu'il connaît, qu'il aime beaucoup, puisqu'il le tient depuis 50 numéros. C'est un de ses personnages fétiches, quoi. Donc il en profite. Une histoire de Spider-Man, puisqu'il fait partie du Spider-Brain Trust. Il se fait plaisir.
Et je rajouterais que les dessins de Santucci sont vraiment super. Enfin, moi j'aime beaucoup.
C'est sympathique, ouais. C'est franchement plutôt sympa. Bon, après, l'histoire en elle-même est un peu à chier. Spider-Man, pardon. Miss Marvel est possédée par Venom. Oh, mon Dieu.
Oui, enfin, Miss Marvel a passé un temps. Hein. C'est vraiment une histoire prétexte pour vendre un truc qui s'appelle Siege Spider-Man.
Enfin, j'ai pas lu toute la série de Miss Marvel. J'ai dû en rater une quinzaine d'épisodes sur l'ensemble de la série. Mais j'ai l'impression qu'elle est tout le temps possédée, quoi.
Ouais.
J'ai
Non,
l'impression
c'est
qu'elle
vrai.
passe son temps à être possédée et qu'elle n'est pas dans son propre corps. Bah, ça devient fatigant, quoi. C'est toujours la même chose avec elle. Ah, va y avoir Miss Marvel. Ah, elle va être possédée. Voilà ce que je me dis, quoi. Pas grand-chose, quoi. On sent bien que Reed aime bien ces deux persos-là, c'est tout. Ouais.
Tout simplement.
Ouais. Conséquences de l'histoire, aucune.
Ouais.
Et ensuite, c'est Siege Young Avengers, Sean McKeever au scénario, Mahmoud Asrar au dessin, Scott Hanna et Victor Olazaba à l'ancrage. Les Young Avengers sont sur Siege, enfin sont sur Asgard, pardon, après la chute d'Asgard, et ils essayent, certains, donc Speed notamment, essayent de sauver tous les civils, tous les gens qui pourraient encore être sauvés,
Voilà.
pendant que Patriot et Hawkeye sont enfermés dans une cave, enfin un truc qui s'écroulait sur eux, ils sont coincés, et puis c'est Wiccan, je crois qu'il s'appelle, et Hulkling. Sont en train de rechercher d'autres personnes et font pas grand-chose. Moi, je suis absolument pas rentré dedans.
Oui, bah non,
C'est des
c'est
personnages.
totalement inutile. Et puis, ce qui me fait marrer, c'est surtout la fin. Allez, on a besoin de nous. Mais où sont-ils après?
Bah, ils sont, hein, on les voit dans Siege 4, hein, de toute façon.
Ouais, oui, allez, on les voit dans Siege 4 sur une page peut-être,
Ah
mais.
oui, non, mais on les voit, ils sont là, quoi.
Oui.
Mais de toute façon, le problème, c'est toujours le même problème. Je dois faire un blocage sur ces personnages.
Ah, mais
Dès
pourtant.
que, non mais dès qu'ils sont dans une histoire, je n'entre pas dedans et je me fais chier.
Oui, mais parce que tu n'as pas lu Young Avengers,
Ah bah je pense, ouais,
le run,
je pense.
le premier run, quoi.
Je sais que tu m'en parles souvent, il faudrait que je m'y mette, mais je fais vraiment un blocage sur ces persos,
Ah,
quoi. Je
c'est
n'arrive pas à m'y
excellent.
intéresser.
L'histoire, il n'y a que 12 numéros, et en 12 numéros, c'était vraiment très bon. Et la suite, dont je parle dans le wiki, est aussi très très bonne.
Mais c'est impressionnant comment je me fais chier avec ces persos, quoi. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à rentrer dedans. C'est vraiment un blocage mental. C'est peut-être Loki qui a joué avec ça. Et
Voilà.
l'épisode, enfin le magazine se termine avec Siege Captain America, écrit par Christos Engage, dessiné par Federico Dallocchio, pardon. On a Bucky et Cap qui essayent de se remettre de la chute d'Asgard dans laquelle ils ont été pris. Et puis il y a des civils qui viennent de leur demander de l'aide. Voilà. Et il se retrouve à se battre contre le personnage qui a des couteaux à la place des bras, dont je n'ai plus le nom. Bref, c'est pas très très passionnant. Bucky est encore en proie au doute, comme d'habitude. Va-t-il devenir le nouveau Captain America? Devrait-il laisser la place à Steve Rogers? Voilà, enfin, Steve Rogers a toute confiance en lui, mais est-ce que Steve Rogers devrait avoir autant confiance en lui? Il est vraiment au doute de lui-même, et puis il accepte cette charge d'être Captain America et de se battre pour le peuple, etc. Voilà, c'est franchement aussi compliqué que ça, hein, c'est-à-dire,
Oui,
c'est pas compliqué.
c'est-à-dire c'est inutile,
Ça
mais tant pis.
veut rien dire, je dis bon, ça va. Bref, bon, un épisode dispensable, hein.
Ouais.
Gage sur Captain America, ça va, enfin, il a bien Bucky, je trouve. Il tient bien Bucky. Donc, une mini-série sur Bucky, écrite par Gage, pourquoi pas.
C'est
Enfin,
vrai.
je trouve qu'il le tient bien.
Ouais,
Voilà.
je tiens à préciser qu'à la fin du magazine, il y a quand même quelques petits sketchbooks.
Ah,
Voilà.
tiens, j'avais pas l'impression qu'on avait ça en VO. Mais ils
Mais
sont peut-être
quelques
tirés
petits.
d'un
Alors, quand je
autre.
dis quelques petits sketchbooks, c'est 2 pages. Hein. Mais une page avec du sketchbook Spider-Man et une page avec du sketchbook Secret Warriors, plus, bon, alors ça c'est assez
Ils
habituel,
sont
les
peut-être
couvertures.
tirés du TPB alors, ou
Peut-être.
peut-être d'autres choses, parce que ça me dit rien du tout, je les ai pas vus dans mes VO.
Peut-être, peut-être. Bon, enfin, en tout cas, voilà. Donc, pour 5,60, c'est dispensable.
C'est
Franchement,
totalement dispensable. Si
c'est
franchement vous voulez
totalement
faire des
dispensable, il n'y a
économies,
pas
passez à
vraiment
côté.
d'histoire, quoi, là-dedans.
Il y a vraiment le plus intéressant, c'est le Siege Loki. Vraiment. Mais nul doute qu'on y fera allusion et que ce sera réexpliqué quand il y aura besoin. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous en passer si vous voulez faire des économies. Bien, bah on passe à la suite. Marvel Icons numéro 69, premier épisode. Alors déjà, dernier Marvel Icons, hein, tout simplement, puisque à partir du prochain mois, normalement, ça repart à zéro. À moins que ça
Ouais,
change même de nom, je ne sais plus.
nouveau volume, non, je crois que c'est Marvel Stars qui remplace Dark Reign, et donc Marvel Icons et Marvel Heroes, je crois, reviennent, mais au numéro 1.
Donc enfin bon, en tout cas, dernière formule, dernier volume de cette formule-ci. Donc, New Avengers numéro 64, Brian Bendis au scénario, Mike McCone au dessin, dernière partie de Siege, dernier épisode de la série d'ailleurs, New Avengers, qui s'arrête avec cet épisode-là.
Mais il y aura un épisode final.
Finally, ouais, le mois prochain.
Voilà.
Dans le premier épisode, dans le premier numéro de Icons ou Heroes ou Stars, je ne sais plus comment ils ont découpé les publications. J'ai regardé que vite fait, donc je l'ai plus en mémoire. On a encore donc ce parallèle entre Hawkeye et Mockingbird, et puis Hood et Madame Mask, hein, le couple du côté des gentils, le couple du côté des méchants, et grosso modo, c'est ça sur l'ensemble de l'épisode, quoi. On voit la fuite de Hood et Madame Mask.
Et voilà, puis, les sempiternels ennemis récurrents depuis un an. The Hood et Madame Mask.
Centré sur cette perte de pouvoir suite
oui,
à,
alors, bon,
au
alors,
fait que Loki a récupéré ses pierres normes, quoi.
On l'a déjà répété dans les précédents, mais ce qui est toujours très bien fait quand même dans Siege, au moins, c'est cette coordination entre les titres et le fait qu'on voit certaines scènes dans tel autre truc. Donc on avait vu dans un autre épisode, alors je sais plus lequel ce mois-ci, où Hood disait à Madame Mask, mince, on a perdu les pouvoirs, faut vite qu'on se barre. Et là, donc
c'est
moi,
dans
c'est l'initiative. Juste en avant.
On en parlera tout à l'heure.
Voilà, exactement.
Mais on le revoyait aussi dans Siege, je crois.
Oui aussi, non mais enfin de toute façon, voilà, c'est quand même très bien fait. Et puis les répliques sont les mêmes, quasiment.
Ouais.
Chaque fois. Donc,
bon là c'est facile puisque c'est Bendis qui écrit, donc.
Oui.
C'est peut-être parce qu'il avait envie de fainéanter.
Ouais.
Comment ça je cherche à dire du mal de à tout
non
à tout
mais enfin Christos Gage le reprend quand même dans
oui mais là c'est que c'est Bendis donc il faut que je trouve un truc. On va croire que j'aime pas Bendis alors que en général je l'aime bien hein, sauf quand il nous décompresse les trucs à l'extrême quoi.
Ah bah c'est ce qu'il fait un petit peu quand même sur le titre depuis un an. Ah sans
je voulais
rire,
pas
sans...
le dire je voulais pas le dire même.
Sans rire c'était depuis un an si tu et résume nous l'année des New Avengers. Honnêtement, je me souviens de rien, à part qu'ils ont affronté le Docteur Arrow, et puis Red Hood, quoi.
Non, pas Red Hood, Hood.
Hood, oui.
Red Hood, c'est chez DC.
Oui, oui, voilà. Ils ont affronté Hood, et puis il y avait toujours plein d'histoires avec machin est kidnappé, on va aller faire diversion quelque part, ouais. Et puis on va aller le sortir de là. Enfin, voilà. Donc, bon. Bref, donc, bah, ouais, un épisode à la Bendis, quoi.
Sympathique, mais sans plus, quoi.
Voilà.
Ouais. La suite, c'est le Fantastic Four numéro 574, Jonathan Hickman au scénario, Neil Edwards qui assure encore l'intérim pour Daily Gelsham dans cet épisode-là, et Andrew Curry à l'ancrage. C'est l'anniversaire de Franklin, et c'est un épisode qui est génial.
Ouais, c'est vraiment pas mal, mais c'est un épisode, encore une fois, un petit peu à part, finalement. Moi, je pensais que c'était le début d'un arc, mais pas vraiment.
Vaguement.
Ça annonce
la suite.
Oui.
Voilà.
Oui, ça annonce la suite, ouais. Avec l'arrivée d'un personnage, surtout.
Entre autres.
Est-ce qu'on en parle?
Oui, on y revient tout à l'heure à ce personnage. L'anniversaire est bien mené, je trouve, parce que on a vraiment plein de persos du passé qui reviennent. On a les Power Pack, dont Franklin a fait partie.
Bien sûr. Ouais.
On a Spider-Man qui vient faire un coucou à Franklin et puis se prendre la tête
avec
Johnny Storm, comme d'habitude. Les répliques sont vraiment bonnes. Franchement, il tient vraiment bien les persos, quoi. Il fait vraiment tout ce qu'on aime.
Il tient vraiment bien les persos. Alors,
on a aussi Artie and Leech, quand même, qui sont là.
Ouais, ouais. Est-ce qu'on n'avait pas eu déjà des épisodes d'anniversaire de Franklin, quand même?
Oh oui, sûrement, oui.
Parce que on sait que Hickman a tendance à faire des choses qui ont déjà été faites, mais bon, il les fait bien, donc on lui pardonne. Mais par contre, j'étais en train de me poser la question, mais quel âge il a, finalement, Franklin?
8 ans, je crois.
Oui, il a pas rajeuni, même?
Ou 9 ans,
je sais plus. D'accord. Oui, enfin non, remarque, il y a quelques années, à l'époque d'Onslaught, il paraissait plus jeune.
Oui, mais il avait eu une version du futur avec Fantastic Force à l'époque où il était revenu plus âgé.
Voilà. Ah. Et d'ailleurs, transition peut-être.
Mais il y a quand même un truc important, c'est Reed qui parle au frère aîné des Power Pack de son nouveau projet. Ce frère aîné des Power Pack a 19 ans maintenant d'ailleurs. Hein. Comme quoi le temps passe plus vite pour certains que pour d'autres.
Oui, c'est vrai. Comme c'est étrange.
Étrangement. Et du coup, il lui parle d'un nouveau projet dont il voudrait qu'il fasse partie. Voilà, en tout cas, donc ce projet de Reed aura de l'importance bien sûr dans la suite du Run Dickman. Peut-être même dès le numéro prochain, je ne sais plus. Enfin bref, c'est quelque chose sur lequel il va revenir. Hein. C'est pas une idée mise comme ça et.
Ah
sur
bah oui, oui, oui. D'ailleurs, on en a parlé dans un Comics Weekly aussi.
Et puis on a aussi ce personnage, ce petit gamin qu'ils avaient sauvé tout début du Run Dickman, dans le premier épisode.
Ouais. Mmh.
Et qui refait son apparition, enfin qui revient en tout cas, il est toujours là, donc ce personnage-là n'a pas été oublié. Donc voilà, puis un petit moment avec Sue, justement, enfin Suzanne, Jane en français.
Mmh.
c'est très compliqué là, ça devient très compliqué. Où justement il dit qu'il a pas d'identité propre, qu'il est qu'un numéro, et il veut pas qu'on lui donne un nom parce qu'il estime ne pas l'avoir gagné. Enfin voilà, j'ai trouvé ça assez touchant. Quoi.
Bah non, mais c'était vraiment un épisode bien amené, très sympathique à lire.
Et puis on a après la partie grosse menace, truc mystérieux à la Fantastic Four, justement, comme tu disais, avec ce Franklin adulte.
Toujours quelqu'un qui vient d'un monde parallèle. Ça, c'est extraordinaire chez les Fantastiques. C'est toujours un
Non,
invité
il vient
mystère.
pas d'un monde parallèle, hein, il vient du futur, hein,
Oui,
c'est
enfin,
vraiment
oui, quand je dis monde
Terminator all over again, quoi.
parallèle. Exactement.
Il va transmettre un message à Valeria. Mais pas que.
Ouais.
Et cette fin, waouh. Waouh. Moi, je suis resté sur le
Ah,
cul,
bah,
là,
ça me
j'ai
rappelle
fait.
justement une certaine période
Oui.
qu'on ne nommera pas, enfin que j'ai nommée plutôt. Donc,
Donc, non, vraiment très intéressant. Très intéressant épisode et très intéressant Hickman sur Fantastic Four. Je suis soufflé. Je suis soufflé que le mec tienne aussi bien le truc, quoi.
comme les bougies d'anniversaire.
Waouh. Alors
Waouh.
celle-ci, celle-ci, je l'ai pas vu venir.
Oh là là, moi non plus je l'ai pas vu venir, tu vois, il y en a quand même qui viennent à l'esprit comme ça. Instantanément, c'est le pouvoir de la mauvaise blague, quoi. La blague foireuse.
Allez, on passe aux épisodes suivants. Iron Man 23-24, scénario Matt Fraction, dessin Salvador Larocca. C'est la fin de l'arc Disassembled.
Oui.
Donc un arc qui n'aura pas duré un an.
Et alors, je pensais en plus, je sais plus pourquoi, mais au moment où j'ai lu mon Marvel Icon, je me disais, bah c'est bon, là on va passer à autre chose, puisqu'il s'est terminé le mois dernier. Bah pas du tout, en fait, le cauchemar continue. Je pensais que c'était, et franchement,
Le
je pensais que c'était
cauchemar.
terminé. Et
Pour
au
Tony
fait,
Stark,
non.
oui, c'est un cauchemar.
Oui, et en plus, bah pour les lecteurs aussi, quand même, c'est très long. C'est très chiant, quand même. Et alors, il restait encore deux épisodes, même pas un, mais deux, quoi. Et donc on a les deux.
Ouais, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Tony est sauvé, bah, tout le monde s'en doutait. Mais pas forcément de la façon dont on pensait.
Et surtout, ça pose un problème qui n'est pas adressé dans les autres séries.
Pas encore.
Oui, enfin on va voir, mais tu verras que ça pose quelques petits
Ah, mais je...
soucis que j'avais remarqué quand j'avais chroniqué certains épisodes dans le weekly, puisque voilà, c'était pas raccord, quoi.
Mais peut-être que l'épisode 25 répondra à cette question, puisque l'épisode d'anniversaire.
Ouais, on verra ça. On verra ça très très vite.
Oui, on a l'attaque
Alors,
de, on a l'attaque de Ghost,
ah
on a des
oui.
personnages qui mangent, hein, James Rhodes, c'est James,
Jim
je
Rod.
sais, Jim, ouais. Jim Rhodes, bah, se fait bien toucher d'ailleurs, et d'ailleurs, on ne sait même pas vraiment ce qu'il advient de lui à la fin de l'épisode. On revoit Doctor Strange sur un lit d'hôpital, mais James Rhodes, on l'oublie.
Oui.
Peut-être qu'il est cané.
Oui, peut-être que tout le monde s'en fout.
Ouais.
Voilà, de War
Non,
Machine.
mais c'est bizarre, quoi, parce que on voilà, il se prend un coup, une balle, je crois, dans le bide ou un truc comme ça.
Mais c'est marrant, non, mais c'est vrai que c'est marrant, parce qu'il y a un certain temps, durant les années 90, il se serait pris une balle, ça aurait été l'événement, puisqu'il était quand même super important ce personnage-là. Il a remplacé même. Il y avait même toute une saga où on pensait que Tony Stark était décédé et Jim Rhodes prenait
Oui,
sa
bah, il
place.
avait même déjà remplacé dans les années 80,
Et bah
fin
oui,
des années 70. C'est lui qui
exactement.
portait l'armure puisque Tony était trop bourré pour pouvoir prendre l'armure.
Et c'est lui qui récupérera aussi l'armure de War Machine, enfin voilà, dans les années 90. Quand c'était Len Kaminski au scénario d'ailleurs, très bonne période que je conseille à tout le monde. Bref.
Ouais, l'étrange 270, 280 par là.
Et oui, pas connu comme période, mais très très bonne. Et bah là, voilà, maintenant, c'est un personnage qui dont tout le monde se fout. Il peut se prendre une balle dans le bide allègrement, et puis
Et
on laisse
puis
habiter.
surtout, on nous dit pas s'il s'en sort ou pas, c'est quand même
Et oui, voilà,
terrible.
c'est ça, quoi, on le laisse mourir dans son coin.
Jim Rhodes, l'éternel oublié.
Ouais, bah, c'est un peu le problème des personnages secondaires comme ça. Happy Hogan, tu te souviens, avait énormément d'importance au début, et puis finalement il est mort comme une merde, hein, quand même.
On le recroise dans cet épisode.
Oui, si on veut, oui, c'est vrai.
En quelque sorte. Voilà, bon, Tony est en plein cauchemar et finit par s'en sortir. On pouvait s'y attendre, mais non, c'est le twist final est plutôt sympathique. Par contre, j'avoue, je me suis dit, ah, ça va poser un petit problème, et en même temps, c'est un peu facile.
Ah bah oui, c'est le fameux coup de. Voilà, on va pas dire ce que c'est, mais disons que c'est une ficelle plutôt éculée, justement.
Ouais.
Une
Alors c'est vrai
ficelle
qu'on a,
facile.
on a la, on a la, enfin, j'ai l'impression qu'on est un peu blasé, peut-être, de
Bah
tout
c'est
ça.
trop long, non mais c'est en fait le problème des arcs de Matt Fraction, c'est qu'ils sont bons, mais qu'ils sont trop longs.
Bon, il y a quand même une scène qui est terriblement drôle. La scène où Pepper Potts et Maria Hill se rendent compte qu'elles ont couché avec Tony Stark à très très peu d'intervalle.
Oui.
Et alors là, juste ça se passe sans dialogue, il y a juste les regards.
Oui.
Et c'est très drôle. Franchement, je dois avouer que ça m'a bien fait rigoler comme scène.
D'ailleurs, il y a toujours la question de savoir qui remportera, qui
Non, non pas
repartira
le
avec la.
cœur, mais le pénis de Tony Stark, puisque ben,
Oh
Tony Stark
non.
n'a pas de cœur. Non, mais Tony Stark n'a pas de cœur, il couche avec tout le monde, il n'a pas de cœur.
C'est horrible
Il a
ce que
juste
tu
un
dis.
pénis.
Oui, d'accord. Bon, bien. Mais à ton avis, justement, si tu devais faire un Wild Guys, tu penserais laquelle des deux, à terme?
Bah, Pepper Potts, parce que c'est historique, mais en même temps, avec Maria Hill, ça pourrait donner quelque chose d'assez sympa, un
Et moi,
couple.
justement, j'ai envie de te dire, pour que ce soit plus surprenant, je pencherais plutôt vers Maria Hill.
Ouais, mais maintenant, Pepper a une armure, donc elle est plus à même de suivre Tony Stark et
Et de se faire
qui.
buter.
Ouais, j'aurais dit le même mot, mais avec une lettre différente, dans les airs, tu vois.
Muté, non, ce n'est
Non,
pas ça.
non, c'est la deuxième lettre qu'il faut changer. On cherche et tu vas voir. Tu remplaces une voyelle par une autre et puis c'est bon.
Ah, je veux pas.
Le mot de départ c'était buté.
Oui.
Sur ton clavier c'est juste à côté. Tu peux pas te
Ah
tromper. Voilà.
non, oh non. Oh non, 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 mais c'est dégueulasse, on peut même plus
Mais oui,
discuter maintenant.
mais Tony Stark n'est qu'un pénis de toute façon.
Non,
C'est un pénis sur pattes.
faut que ce soit, censuré tout ça. Le CSA va nous tomber dessus, c'est tout, en fait.
Mais Iron Man n'est qu'une capote géante, hein, de toute
Oh là là,
façon.
n'importe quoi. Bon, alors, je sais pas ce qui t'arrive sur Iron Man, mais on
Je
va.
suis très fatigué, je divague
Ouais,
totalement.
totalement là. On va passer justement à Captain America, du coup.
Moi aussi, je veux me faire des fans, mais des fans d'un autre genre.
Oui, d'accord. Je les laisse.
Je dis n'importe quoi, je suis. Oh là là, je suis fatigué. Ce Comic City, le premier de l'année, est très difficile pour moi. Je bafouille et je pense qu'il y en aura certains qui seront coupés au montage. Bref, le dernier épisode du mag et le dernier épisode dans Marvel Icons, première formule. Captain America numéro 605, Ed Brubaker au scénario, Luke Ross au dessin, Butch Guys à l'ancrage. Et c'est la fin de l'arc sur le cap des années 50. C'est bourré d'action.
Bah, c'est pas mal. C'est
Ça
vraiment
se lit
super.
vraiment très bien, ouais. C'est du bon. Là, cette fois-ci, c'est du bon pour une fois qu'on dit que c'est du bon. Remarque, l'arc dans l'ensemble est plutôt pas mal. L'arc me laisse un bon souvenir. Il y a une partie peut-être en trop, si je devais vraiment être critique, mais.
Non, mais on était un peu désabusé de Captain America, puis finalement, là, ça reprend du poil de la bête dernièrement, donc.
Et
Je sais.
la fin est lourde de conséquences pour Bucky, puisqu'il est obligé de faire un choix qu'il n'avait pas envie de faire, finalement.
Ouais, et j'ai hâte de lire le prochain arc. À nouveau, j'ai hâte de lire du Captain America, donc c'est plutôt bon signe.
Voilà, puisqu'on sait maintenant que Bucky va être Captain America, c'est officiel, puisque Captain Steve Rogers, donc il va enfin pouvoir être Cap, je pense
Oui,
maintenant.
d'ailleurs, je pense que c'est
Ben,
pour ça que
j'espère,
Marvel, pour
j'espère.
encore plus appuyer le fait que maintenant c'est bien Bucky, le seul et l'unique, fait de Steve Rogers le nouveau Nick Fury, quoi. Pour vraiment le mettre dans un autre rôle.
J'espère vraiment qu'il va enfin devenir ce cap et passer à autre chose
Passer le cap,
qu'à.
franchir le
Ouais,
cap.
voilà, exactement. Sur une très belle vanne, tu résumes très bien la situation. Donc bon épisode, pas grand-chose à dire, hein. Ça pète de partout, c'est très sympa, donc voilà. Bah, c'est la fin d'une époque pour Marvel Icons qui repart au numéro 1 le mois prochain et sur sur une nouvelle bannière, la bannière Heroic Age.
Ouais, sur une nouvelle manière. Alors, par contre, pas gros changement, hein, puisqu'on se trouvera bien sûr les 4 Fantastiques, Iron Man, Captain America et la
Hulk.
série. Alors, non.
Ou à moins qu'il soit dans Stars,
Non,
je ne
non,
sais plus.
c'est la série toujours New Avengers, le nouveau volume de New Avengers. Donc ça change vraiment pas grand-chose, en fait. Ce sera vraiment
Non, c'est bon.
le titre qui changera le moins, finalement. Donc voilà, pour tous les fans de Marvel Icons, bah, n'ayez crainte, puisque le titre subit pas énormément de bouleversements, en fait, par Storybook.
Allez, dernier épisode, dernier magazine
Magazine.
chroniqué cette quinzaine, c'est le Marvel Heroes numéro 39. J'espère que je vais arriver à finir le Comics Weekly en entier, au lieu de dire des saloperies.
Bah, surtout que c'est un Comic City, donc.
Ben, j'ai dit Comics Weekly? Oh, bah,
Oui.
bravo.
Mais
C'est bien.
bravo.
Je me contredis moi-même en une phrase, c'est pratique. Mighty Avengers numéro 36 pour commencer, dernier épisode de la série Mighty Avengers, là encore. Dan Slott au scénario, Coy Pam au dessin, Craig Young et Dave Mikes à l'ancrage. C'est incompréhensible si on n'a pas lu Thunderbolts. Si on n'avait pas lu le Thunderbolts dans Dark Avengers, vous ne comprendrez rien à cet épisode, puisqu'il y a beaucoup de scènes qui sont des scènes tirées de Thunderbolts. Mais si on les a pas lues, bah, mises comme ça, bout à bout, on sait pas trop ce qui se passe et on comprend pas grand-chose. Alors, je sais pas
Ah
dans
oui.
quel sens tu l'as lu.
Alors,
Je sais
gros
pas si tu as lu celui-ci avant Thunderbolts.
non, je dis déjà gros problème, merci Panini, parce que je tiens à dire aussi que Marvel Heroes est sorti 4 jours avant Siege et
Ouais.
Marvel Icons. En fait, il est sorti en premier, il est sorti tout au début du mois, alors que, au fait, c'est vraiment ce qu'on devrait lire quasiment en dernier, Marvel Heroes.
Quasiment, ouais.
Bon, bah c'est encore une fois, c'est dommage, parce qu'on se demande pourquoi. Pourquoi le 4 janvier est sorti Marvel Heroes? Alors Dark Reign est sorti aussi le 4 janvier, et puis ensuite le reste, et bah c'est
Bah,
sorti le
au
7.
moins il y avait la possibilité de lire Thunderbolts avant.
Oui, mais ça te spoilait, au fait. Le problème, c'est que ça te spoilait tout ce qui se passait dans Siege, quoi.
Un petit peu.
Ouais.
Un petit peu, c'est vrai.
La mort de Sentry,
Mais généralement, enfin en tout cas sur les magazines américains, il y avait écrit à chaque fois dans la page de résumé, lisez Siege 4 avant.
Ah mais là aussi c'était marqué, mais le problème c'est qu'on te dit
bah,
lisez,
3
alors
jours,
que
quoi.
après tu dois attendre 3 jours, alors c'est bête, tu vois, d'acheter tes BD si c'est pour attendre pour les lire, quoi.
Ouais, c'est
Vaut
vrai.
mieux sortir dans
Enfin bon,
l'ordre.
c'est que 3 jours, c'est pas attendre un mois non plus, quoi.
Ouais, mais c'est toujours rageant de rentrer et
Ah
de
bah
se
bien
dire
sûr,
bah
là je suis
merde, voilà.
d'accord avec toi, là je suis d'accord avec toi, c'est rageant, ça c'est certain. Donc bah à part ce fait que c'est incompréhensible sans lire Thunderbolts, on a la fin de cette intrigue avec Ultron, Hank Pym et Joe Casta et le retour de la guêpe, qui est dans cette espèce d'univers en dessous le Microverse.
Ouais, voilà, c'est elle, quoi.
Et bon bah c'est un truc qui m'a fait chier, hein. Je vais le dire gentiment.
Ouais, franchement, on sent qu'on a dit à Dan Slott, bah voilà, termine cette série et puis basta, quoi. Enfin voilà, c'est totalement à l'extérieur de ce qui se passe dans Siege. C'est
Alors.
vraiment, bah c'est même plus d'ailleurs les Mighty Avengers, on va dire que franchement, c'est Hank Pym, quoi.
Ouais, c'est clair.
C'est les
Par
aventures
contre,
d'Hank Pym.
il y a une scène, bah justement, une de ces scènes des Thunderbolts, que. Alors, je n'avais pas remarqué que Hank, que Hank, pardon, que US Agent se faisait couper le bras. Parce qu'il a le bras, enfin quand tu regardes la scène dans Mighty Avengers, il se fait couper le bras par Mister X. Ou Scourge, je ne sais plus lequel
Ah,
des deux.
d'accord. Ben alors c'est lui. Attends, comment il s'appelle, notre ami US Agent?
Je ne sais plus.
D'accord. Il était proche de Sentry? Non, je ne sais pas.
Non, mais il soutenait Norman Osborn, enfin il le dit clairement, quoi. Mais
Ouais.
après, il s'est rendu compte que c'était un fou, mais.
Non, d'accord. Donc ça doit
Mais
être lui.
enfin, dans Thunderbolt, j'avais pas l'impression qu'il mangeait à ce point, et là, il s'est quand même fait couper le bras, quoi. Donc voilà, on verra si US Agent a un futur. Ça va être
Bah
difficile
ouais.
de porter le bouclier et un flingue en même temps, du coup, vu qu'il
Il
n'y a plus
peut le
qu'un bras.
greffer directement le bouclier comme ça à son
Ouais.
bras.
Bref.
Enfin à son moignon.
Ouais, là, vu comment il est coupé bien haut, hein.
Oui,
Au-dessus
non
du
mais
coude.
c'est bien lui alors qu'on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, bah un épisode vraiment, je dirais, quasiment bouche-trou, qui ne mène à rien. Et qui est très très long, très long, très long.
Ouais. Mais c'est une fin assez bizarre qui paraît très expédiée et où tout rentre dans l'ordre au final.
Ah oui, puis
Peut-être que ça
alors
aurait pas dû
la
finir comme
manière
ça.
dont il arrive à berner Ultron est assez ridicule quand même. D'ailleurs, il
Ouais,
le dit lui-même.
ouais. Je pensais pas qu'il tombait dans le piège à ce moment-là.
Non,
Ouais,
moi non plus.
c'est sûr. Par contre, ça peut-être apporter des futures histoires. Alors, je vais pas révéler un truc qui va se passer dans quelques mois, mais c'est vrai que ce que Bendis annoncera, vous verrez dans quelques mois en français, je dis bien
Bah,
quelques
le mois
mois.
prochain même.
Non, non,
Ah non, non, t'as raison.
c'est vraiment dans plusieurs mois. On en reparlera à ce moment-là de ce fameux plan. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ceux
Oh, dans
qui lisent en
3-4
VO
mois, on va dire.
comprendront. Ouais, je dirais plutôt 6 mois.
Ah, d'accord.
Donc voilà, bon, reverra-t-on Ultron, on saura plus tard. Voilà, il y a pas grand-chose à dire, quoi. Le fait qu'il ressuscite pas Janet parce que Joe Casta s'est marié avec Ultron. C'est genre, je la ressuscite pas parce que finalement ça fait chier de la ramener, quoi. Enfin, c'est vraiment la pirouette à la con, je trouve. Dommage, encore une fois, c'est une série qui partait bien et qui a perdu au fil du temps et qui,
Bah,
pour moi,
et
c'est
Dan
bien qu'elle
Slott, on a
s'arrête, quoi.
l'impression, a perdu sa passion pour cette série, au
Ouais,
fur et à
parce que
mesure.
c'est vraiment les premiers arcs étaient très bons, quoi.
Ah oui, bah ça avait un côté vraiment Avengers de l'ancien temps, quoi, on va
Ouais, old
dire.
school, ouais.
Old school. Et là, c'était juste chiant, quoi.
Oui, bah oui. Y a pas, ça, on peut pas le dire vraiment autrement, quoi.
Donc on passe à Thor.
Thor 609, Kieron Gillen au scénario, Billy Tan et Rich Elson au dessin. Kelda était face aux agents du Hammer qui s'apprêtaient à lui tirer dessus.
Voilà, mauvaise
Et
posture.
bah ils gênent pas. Elle se fait mitrailler. Alors s'en sortira-t-elle? La réponse dans l'épisode. On va pas le dire.
Exactement.
En tout cas, Loki explique tous ses plans à Balder. Et encore une fois, c'est bourré de mensonges, de machinations. Et le mec s'en sort avec brio, c'est terrible. T'as envie de
Ah,
la regarder.
moins quand même, il s'en sort moins, puisqu'au final, il s'en sort pas, quoi, d'ailleurs. Ils lui disent
Mais.
tu es. Enfin, il se rend compte
Exilé,
que.
ouais. Ouais, il exile, mais. Enfin, je veux dire, la façon dont il les mène en bateau, t'as envie de rentrer dans le comique, mettre une grande tarte dans la gueule à Balder et lui dire, mais réveille-toi, c'est Loki, quoi. Réveille-toi. C'est pas possible. Mais c'est
Ça fait
génial, t'as.
partie, je pense, de son pouvoir, de toute façon.
Mais Gillen le tient bien, quoi. Il tient bien un Loki mensonger comme ça. Voilà, enfin, c'est vraiment la petite le petit moment perle du numéro, quoi. C'est toutes ces explications et finalement, même le pire, c'est que même quand toi tu sais, tu lis le truc et tu te dis, ouais, il a peut-être voulu faire ça au départ, mais voilà, enfin, il te met le doute en toi en tant que lecteur, je trouve.
Ouais.
Donc ça c'est bon, quoi.
Ouais, non, mais la série reste très bonne. Même en étant tie-in à Siege, ça reste passionnant. Et il y a toujours des scènes marrantes avec Volstagg aussi.
Ouais. Mais ça aide franchement à comprendre aussi ce retournement de Loki dans Siege. Pourquoi s'est-il retourné pour aider à vaincre Sentry?
Bah, moi, enfin, juste en lisant ça, tu t'y attends pas, hein, franchement, qu'il aille jusqu'à faire ça.
Non, mais tu comprends un peu plus pourquoi. Tu comprends plus.
Tu comprends plus.
Ça combiné à ce qu'il explique dans Siege Loki, voilà, t'arrives à comprendre pourquoi il s'est retourné.
Ouais.
Beaucoup. Et donc, ouais, comme tu disais, Volstagg, toujours très drôle.
Toujours très drôle. Kieran Gillen, qui est vraiment très bon sur Thor, et on espère du coup que Matt Fraction fera aussi bien, finalement, puisque Kieran Gillen aurait pu limite le remplacer, enfin remplacer Straczynski sur la durée, finalement.
Ouais. Ouais.
Tellement c'est agréable.
Et c'est vrai que
on va peut-être même être déçu que de le voir partir.
Peut-être, ouais. Allez, l'épisode suivant, c'est le Avengers Initiative numéro 35, dernier épisode de la série là encore. Christos Engage au scénario, Jorge Molina au dessin, Andrew Hennessy à l'ancrage, et c'est une fin qui clôt mais énormément de choses. C'est une fin, je sais pas comment on peut faire une fin plus complète.
Ouais, peut-être avec un œuf et du jambon.
Tu vas me donner faim en plus.
Oui, voilà.
Voilà, enfin, c'est vraiment le talent de Christos Engage là qui parle. Il nous explique tout. Il y a vraiment une fin pour tous les personnages. Enfin, c'est vraiment super bien foutu.
Ouais,
ça va peut-être un petit peu trop loin puisqu'il y a quand même une scène que l'on verra plus en détail dans Avengers, New Avengers Finally, qu'on lira le mois prochain.
Oui, et puis même dans le premier Avengers, on lira dans Marvel Heroes. Voilà, et bon, on va pas épiloguer dessus, justement, l'épisode s'en charge déjà allègrement. Non, ce qui est juste un petit peu forcé, j'ai trouvé, c'était vraiment, il voulait vraiment expliquer ce que devient chacun des personnages, et alors, sur la dernière page, on te dit vraiment, bon, un tel lui fait ça, un tel lui fait ça, voilà.
Moi, ça me fait un peu penser, tu sais, les films qui sont tirés de faits réels, et à la fin, on te dit, cette personne est devenue avocat, en suivant des études, machin, et telle personne est aujourd'hui en prison, enfin, c'est énorme, moi, ça m'a vraiment fait penser à un téléfilm, quoi.
Oui, oui. Steven et Jessica sont finalement séparés, mais ils gardent toujours contact.
C'est tout à fait ça, ouais.
Pour parodier la fin d'une émission bien connue, qui n'existe plus d'ailleurs, l'été, avec des couples qui se rencontrent sur une île. Mais en gros, ça me faisait penser à ça, quoi.
C'est un peu moins glamour, là, d'un coup.
Oui, non, oui, bah oui.
Non, voilà, non, enfin, moi, franchement, j'ai vraiment passé un super moment avec cet épisode parce que je m'attendais pas à ce qu'il explique tout pour chaque perso. Et en plus, il met en place sa prochaine série, que l'on verra, le mois prochain, je crois qu'elle commence, elle aussi. Il met déjà quelques petits éléments en place, donc ça, c'est pas mal. La seule personne, peut-être, à laquelle il ne donne pas de réponse, c'est Peanuts, Speedball.
Eh ben, Peanuts de Peanuts. On sait pas.
Ouais, non, voilà, c'est le seul dont il n'a pas fait mention dans cet épisode. Pas dans cet épisode, non.
Ah, pas dans celui-là, oui.
C'est vrai, c'est le seul personnage dont il n'a pas parlé. Ouais, mais rassurez-vous, on le reverra très prochainement.
Exactement. Non, mais alors, vraiment, ça clôture tous les plots qu'il avait mis en place.
Et c'est bien.
C'est dommage. C'est dommage parce que, franchement, niveau Avengers, c'était l'un des meilleurs titres, quand même. Mmh. Sans être vraiment du vrai Avengers, quoi. C'était vraiment des personnages.
Depuis que Gage l'a repris en solo, ouais.
Voilà.
Le seul arc qui m'a fait chier, c'est l'arc vraiment concentré sur Hardball, je crois qu'il s'appelle. Avec ses retournements de
veste.
Ouais, voilà.
Ah, oh, bah, tu te rappelles, il y en avait un qui était pas terrible, c'était il y a longtemps, c'était avec, alors je sais plus si c'était Jagged ou s'il était en co-scénariste avec Slott, mais c'était l'arc où il y avait, MVP qui revenait à la vie, qui était cloné, Vance qui disait qu'ils allaient fermer l'initiative, enfin.
Ah, mais ça, c'était au tout début, ça. C'était, vraiment au tout début de la série. C'était épisode 9, 10 par là, quoi. Donc non, Gage n'était pas encore sur le titre à cette époque.
Oui, d'accord. Ouais. Enfin, on chroniquait déjà, hein, donc.
Ouais. Bref. Donc bon épisode, bonne fin de série et souhaitons que la prochaine série de Christos and Gage soit aussi bonne.
Et bon appétit, bien sûr. On passe.
Oh putain.
Non, ouais, parce qu'on parlait de trucs
de bouffe.
Ouais. Oui, de ça m'a donné faim. Donc ouais. On passe un truc.
L'épisode dont je parle depuis plusieurs mois.
Ah bon.
Ah oui, l'épisode que je dis qu'il fallait lire depuis plusieurs mois
Ah
et qu'on va
non,
parler
mais
de ça.
justement, ça c'est drôle que tu dis ça, puisqu'on passe au Sentry spécial.
Ben oui, c'est celui-ci.
Ah oui,
Dont je
d'accord.
parlais depuis plusieurs mois, que je disais qu'on reparlerait de Sentry après cet épisode-là, et du talent de cet auteur magnifique. Donc je te laisse annoncer les crédits, hein. Ça
Alors, nous avons mon scénario. Paul Jenkins, au
va.
dessin Tom Rainey, à l'ancrage Scott Hanna.
Voilà, Paul Jenkins,
Voilà.
voilà.
Paul Jenkins qui a marqué quand même le personnage de Sentry. Donc là, c'est un épisode hommage, on va dire, à Sentry, qui s'appelle Fallen Sun. Sun comme le soleil, hein, et pas Sun comme du temps de Captain America. En plus, c'est une espèce de petit clin d'œil, puisqu'il y avait eu la série Fallen Sun, à la mort de Captain America.
Ouais, je m'en rappelle très bien.
Voilà. Et donc, bah là, en fait, c'est simple, hein, bon nombre de super-héros se rendent sur une espèce
De tombe,
de
là, enfin,
tombe, de
de
tombe
pseudo-tombe,
érigée.
puisque, oui, il n'y a pas de corps, il a été envoyé dans le soleil par terre.
Voilà. Donc une tombe érigée à la mémoire de Sentry. Ils se remémorent tous des souvenirs par rapport à Sentry, ce qui est assez perturbant, puisque Sentry étant un personnage qui a été rétroactivement rajouté à la continuité, normalement, voilà quoi. C'est assez étonnant qu'ils aient autant de choses à dire sur ce personnage.
Oui, et puis
Alors.
alors, il y a quand même un choix de personnage qui fait quand même vraiment de la peine, quoi. Qu'est-ce que vient foutre Daredevil là? Est-ce que Daredevil a déjà rencontré une seule fois Sentry?
C'est ça qui est assez bizarre, c'est qu'ils se rappellent tous des choses, Bob Reynolds était un super pote à eux, etc.
Ben
Alors
oui.
que pas du tout, quoi. C'est comme les quatre fantastiques. Alors en fait,
Oui.
Reed Richards, par exemple, il y a toute une scène où il se remémore le mariage de Sentry et de sa femme. Quand est-ce que ça s'est passé, ça?
Quand je disais que cet épisode c'était de la merde et que Paul Jenkins c'était un petit pignouf,
Non, mais en
voilà.
fait, je pense que ça s'est passé justement dans la série Sentry à l'époque, tu sais, voilà, où, en fait, la série Sentry, où tout a été réécrit, quoi.
Non, mais moi cet épisode m'a fait de
Et
la
alors,
peine.
on voit US Agent, et justement, enfin, moi, j'ai pas trouvé qui c'était, au fait, à la première lecture. Mais ça doit être US Agent sans son costume, puisqu'il a pas de bras, enfin, il lui manque un bras. Et d'ailleurs, il parle de Sentry, et il dit, alors, il y a Reed Richards qui lui dit, mais alors, comment t'as perdu ton bras? Et il lui dit un truc, puis il lui parle de la manière qu'avait de cuisiner Sentry, Robert Reynolds, hein, je crois qu'il s'appelait.
Ouais, c'est ça.
Et enfin, lui parle à un moment du fait qu'il faisait une espèce de sauce piquante tellement forte que personne n'était capable de la manger à part lui. Il fait une vanne de merde puisqu'il dit qu'il a perdu son bras à cause de la sauce piquante de Sentry,
Oui, non, mais de toute façon, cet
quoi.
épisode est une merde.
Donc voilà.
Cet épisode est une merde. Faut être honnête, franchement, c'est un supplice à lire.
Voilà, donc bon.
Franchement, c'est 22 pages de conneries. Enfin, moi, je serais Marvel, je sais même pas comment je pourrais faire encore confiance à Paul Jenkins après avoir écrit une merde pareille.
Ben ouais, enfin c'est pas terrible, quoi. Voilà, c'est vraiment pas terrible, on est tout à fait d'accord. Je suis tout
Voilà,
à fait
donc
d'accord.
le personnage de Sentry, comme je dis, sert à rien, et encore plus dans cet épilogue.
Ouais, totalement.
Donc, bon, bah, passez votre chemin, sautez les pages quand vous lirez le numéro. Je sais pas. Faites-vous plaisir. Servez-vous-en comme papier toilette, peut-être. Parce
On parle.
que c'est vraiment de la merde. Allez, on passe aux deux derniers épisodes. Alors, enfin, deux. Un épisode et demi, quoi, finalement. Fall of the Hulks. Alors, la première partie, c'est le Alpha. Hein, la deuxième partie de ce qu'on avait commencé le mois dernier. Jeff Parker au scénario, Paul Pelletier au dessin et Vicente Cifuentes à l'ancrage. Donc, on est toujours sur cette équipe de l'Intelligentsia, équipe qui œuvrait dans l'ombre, qui est une sorte d'anti-Illuminati, en quelque sorte.
Exactement, c'est
Ou
tout à fait ça.
evil Illuminati plutôt, pas anti, puisque ils cherchent pas à combattre les Illuminati à proprement parler. Voilà, on a MODOK qui rejoint l'équipe.
Bah d'ailleurs, ils sont pas au courant de l'existence des Illuminati.
Non, 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 ils sont pas au courant.
Ouais. Ils ont beau être super intelligents, ils se doutent pas que les super-héros ont formé aussi une équipe comme ça. Mais oui, MODOK rejoint l'équipe, bah c'est surtout la trahison, on peut le dire, puisque ça change pas grand-chose au scénario, de Docteur Doom. Dans cette
Oui,
partie.
entre autres. Et puis, MODOK qui ramène Rulk et puis qui propose à l'Intelligentsia cette création du Rulk, en quelque
Voilà.
sorte.
Et on n'en sait pas beaucoup plus sur bah, qui ça peut être, ce Hulk, puisque c'est l'objet de toute façon du run de Jeff Lobb sur Hulk,
Bah, au final,
actuellement.
moi je trouve que c'est un épisode qui sert pas à grand chose, ce Alpha. Moi j'ai été déçu dans l'ensemble.
Ben oui, mais enfin, rappelle-toi l'épisode, c'est ce que je te disais le mois dernier, qui introduisait les Illuminati. Bah, ça introduisait les Illuminati, quoi, point barre. Donc là, ça introduit ce groupe-là. Après, faut voir si, bon, ils vont être important ou pas, quoi. Mais en tout cas, déjà ne serait-ce que pour ça, je trouvais ça pas mal, quoi.
Comparé à l'épisode qui suit, je trouve que c'est pas très intéressant.
Voilà. Oui, non, là je suis d'accord. Là, l'épisode qui suit, on se dit
Fall of the Hulks Gamma.
Oui.
Voilà, c'est la traditionnelle époque des Alpha Gamma. Hein.
Oui.
À l'époque, c'était Alpha Omega souvent. Mais là,
oui, parce que Omega clôturé, en fait.
Ouais. Mais là, c'est Gamma, puisque bah Hulk, hein, quand même.
Oui, on fuit, oui, effectivement. Ouais.
Et donc là, c'est Jeff Loeb au scénario, John Romita Jr. au dessin, Klaus Janson à l'ancrage. Et franchement, Jeff Loeb, il s'est pas fait chier, quoi. Il a refilé la partie la plus chiante à écrire à Jeff Parker, et lui, s'est gardé la meilleure, quand même.
Mmh. Non, mais alors franchement, je sais pas ce que t'en as pensé, parce que je crois que c'est ta première lecture.
De cet épisode-là, oui.
Ouais. Moi, je l'avais lu en VO à l'époque, je l'ai relu donc en français. Qu'est-ce que t'en as pensé, alors, vite fait?
Ben, moi, j'ai trouvé cet épisode super bon, quoi. Alors, au début, c'est un peu lent, donc c'est la mort de Thunderbolt Ross. Il s'est fait buter par Red Hulk.
Ouais.
Et du coup, on assiste aux funérailles de Thunderbolt Ross.
Alors, c'est assez drôle, d'ailleurs. Je me permets de couper juste là-dessus, parce que on vient d'assister à d'autres funérailles, celle de Sentry, qui était méga chiante. Et alors là, d'un seul coup, on passe aux funérailles de Ross, et elles sont excellentes. Enfin, excellentes.
Ouais. Non, mais oui, l'épisode est franchement super bon, quoi.
Ouais.
On a une éloge funèbre faite par plusieurs personnes, donc notamment le docteur Samson, et Samson, tout le monde attend l'arrivée de Bruce Banner.
Oui, en plus. Et oui. Non, mais Samson, c'est ce que je te disais, en plus, qui est vraiment devenu, je trouve, intéressant.
Devenu un gros connard.
Oui, mais justement.
Bon, il a jamais été franchement super sympathique, je trouve, mais là, ouais, là, il atteint des sommets
ouais.
Dans le côté enfoiré, quoi.
Ouais. Et franchement, Jeff Loeb.
Attention aux insultes, monsieur, quand même.
Jeff Loeb arrive à foutre une quantité de pistes. Mmh. Alors, il y a des personnages qui ressurgissent du passé. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Enfin, tu vois, c'est assez étrange. Et puis même, ouais, dans cette scène d'éloge funèbre, plein de déclarations avec des allusions diverses et variées. C'est vraiment bien fait, quoi. C'est vraiment bien voilà, fait.
On a un petit passage sur la She-Hulk, puis cette fameuse Lyra,
ouais.
Une espèce de fille gamma là, de Hulk
du futur.
Quoi, ouais. Voilà.
Ça, on le sait, oui.
Avec une petite scène de baston intéressante et MODOK qui chapeaute tout ça, donc on voit bien que tout le monde est au service de MODOK. Et puis on a un retournement de situation quand Bruce Banner arrive dans l'église où il y a cet enterrement. Il vient faire son éloge funèbre, protégé par Rick A-Bomb Jones.
Ouais, voilà. qui d'ailleurs est plutôt pas mal comme personnage, puisque jusqu'à maintenant il servait à rien, et là dans cet épisode je l'ai trouvé plutôt sympa.
Oui, voilà, il protège Bruce Banner.
Ouais.
Et on a un twist final, mais alors qui laisse sans voix, vraiment.
Ouais. Ouais. Non mais franchement, jusqu'à maintenant, Jeff Loeb sur Hulk, bah, tu te rappelles, il fut un temps où tu disais que c'était vraiment pas terrible.
Non mais au début c'était de la merde.
Oui, oui.
C'était vraiment à chier.
Oui, oui. Et puis bon, progressivement, il s'est passé quelques trucs qui relançaient un petit peu la machine. Et là, franchement, cette première partie, enfin moi quand je l'ai lu, j'ai adoré.
Moi je suis intéressé. Je suis intéressé par Fall of the Hulk. En tout cas, avec ça, je suis vraiment intéressé.
Voilà. Et beaucoup de questions, hein, des retours de gens, enfin voilà.
Ouais, on a un retour de personnages là.
Ouais.
On se prend ça en pleine tête, on fait ah ouais, quand même. On va falloir peut-être nous expliquer un petit peu ça déjà.
Ah mais normalement, enfin, j'ai souvenir que tout est expliqué. Et
ah ben oui, je me doute que tout sera expliqué, mais j'attends l'explication là quand même. Et puis on apprend quand même aussi que le plan de MODOK et de l'Intelligentsia, donc par extension, a peut-être subi quelques pertes avec la perte de Thunderbolt Ross justement.
Ouais.
Et que leur plan va être devoir changer puisque ils se retrouvent un petit peu embêtés sans le Thunderbolt Ross. Alors sur quel plan était-il? Voilà, c'est pas mal de choses intéressantes pour un début d'event au sein de Hulk. Mais j'attends de voir la suite. Franchement, je suis très intéressé. Surtout qu'à partir du mois prochain, on aura donc Hulk dans. Alors je ne sais plus si c'est Heroes ou Stars, et Incredible Hulk va revenir en mensuel.
Alors Incredible, je crois que ce sera dans le Stars qui va remplacer Dark Reign. Voilà, ce sera Incredible Hulk aux côtés des Thunderbolts et des Secret Warriors qui sont toujours là.
Par contre, ouais, faut avouer qu'honnêtement, Stars va s'adresser à un public vraiment particulier, quoi, parce que le choix des séries Thunderbolts, Secret Warriors et Incredible Hulk, ce sont pas des pour des trucs qui s'appellent Stars. Enfin voilà, tu t'attends à ce que ce soit les Avengers, quoi.
Oui, exactement, exactement. Il y aura les Secret Avengers justement, puisque ça remplace les Dark Avengers. Enfin, ça
Ouais,
remplace.
c'est quand
En
même
fait.
la série la plus stars, on va dire, des quatre proposées, quoi. Bah, c'est celle qui marche le mieux dans les ventes, de toute façon, US, et puis c'est...
Secrète?
Oui.
Ah
Ah bah
bon?
oui, des quatre, oui. Entre Thunderbolts...
Ah oui, non, non, excuse-moi. Non, non, je pensais que tu parlais
Tu parlais
des
des quatre
séries
séries
Avengers.
Avengers. Non, non, je parlais des quatre séries du proposé en magazine
Bien
Stars.
sûr.
C'est quand même celle qui est la plus en vue, quoi. Alors pour un truc qui s'appelle Stars, ils nous mettent plutôt des seconds couteaux quand même, parce que Secret Warriors, bah honnêtement, c'est un peu en chute libre.
Oui.
Il y a Incredible Hulk, mais enfin franchement aujourd'hui, pas mal de gens ne lisent plus vraiment Hulk et s'y intéressent pas trop. Faut dire qu'en plus, le rythme de publication de Hulk, en français en tout cas, aide pas trop.
Ah oui.
C'est assez erratique.
Ouais.
Et
Et là,
puis
d'un
bah
seul coup, on ressemble plus là.
Thunderbolts,
Crossover oblige.
voilà, nouvelle direction pour le titre, c'est pas non plus forcément une série qui intéresse tout le monde. Donc voilà, j'ai peur que Stars ne marche pas très bien, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Malheureusement.
C'est vrai que c'est. Bah,
Donc
voilà. Va falloir voir.
mine de
Et bon.
rien, j'ai quand même vachement hâte d'être au mois prochain et que toute cette nouvelle direction de titre soit bien claire, puisque là on sait plus trop encore, enfin on sait pas trop encore qu'est-ce qui va être publié ou comment quoi. À partir du mois prochain, on sera sûr.
Bah,
Et
disons que j'ai parlé de Stars et de Icons et donc de mémoire, dans Heroes on aurait Avengers, on aurait du coup
Iron Man et Cap. Ah
ah
non,
non
ils sont
non
dans
non non,
Icons.
non. Ça c'est
Pardon.
justement dans
Non,
le
on a
Icons.
Avengers Academy.
Avengers Academy, voilà.
Ouais. Et puis je ne sais plus, mais on verra bien de toute façon le mois prochain.
Effectivement, ouais.
Donc voilà, bah c'est la fin d'une époque, c'est la fin du Dark Reign. On entre maintenant dans l'Heroic Age. L'avenir nous dira si c'est bon ou pas. Voilà, je vois pas mieux à dire,
Oui,
malheureusement.
pas meilleure conclusion de toute façon, ou si c'est pareil.
Ça reste relativement intriguant quand même, et j'attends. Je vais pas dire avec impatience, ce serait un peu trop fort par rapport à ce que je ressens, mais avec une
Bah,
petite pointe de
on a déjà eu des
curiosité quand
éléments de
même.
réponse, puisqu'on a déjà lu des choses quand même dans le wiki,
Oui, mais
quoi.
j'essaye de mettre à la place d'un lecteur français. J'essaye de teaser
Oui,
en bien,
mais
tu
les
vois.
gens savent. Non.
Oui, mais bon, voilà.
Pas non plus faire.
J'essaye d'oublier, parce que dans ce cas-là, il faudrait que je dise beaucoup de choses par rapport à Hulk et toutes les questions que cela pose. Et voilà, je ne vais rien dire. Bref, eh bien, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour la fin du kiosque, notamment avec du DC, et aussi de la librairie, avec un bon programme en perspective. Il va y avoir du très très bon ce mois-ci. On se retrouve d'ici 15 jours pour ça. Et puis le mois prochain, nouvelle fournée d'Avengers, nouveau départ. Et puis voilà. Hein. Je vois pas quoi dire de
Gros
plus.
gros mois en perspective, en tout cas,
Ouais, gros mois de
beaucoup beaucoup
février.
de choses.
Eh bien, on se retrouve d'ici 15 jours pour un prochain Comics Weekly. Et d'ici là, portez-vous bien et lisez beaucoup de comics.
Et pas de mail.
Non. Ah oui, tiens, peut-être que je devais. Ah, merci que je fasse le tour. Quand je dis que j'ai la tête dans les chaussettes.
Oui.
Oui, dans les chaussettes, c'est plus poli que dans le cul. Voilà. C'est pour ça que je le dis d'ailleurs. Donc, bah, les commentaires, hein, sont ouverts. Vous pouvez laisser un petit commentaire pour nous
Sont
dire ce que
ouverts
vous
comme
avez
Hulk.
pensé. Oh putain. Oh, c'est n'importe quoi cette fois. Vous avez le mail podcast@comiccity.fr, vous nous envoyez un mail, on le lit à l'antenne, on répond à la question s'il y a question ou pas, hein, on le lit simplement. Et puis le répondeur au 09 70 440 497. Voilà. Et puis bien sûr, comme j'oublie souvent de le dire, mais nos partenaires de chez Cap Chronicles, vous pouvez aller faire un tour, des news, des reviews, des interviews.
Voilà.
Et vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes sur iTunes aussi.
Exactement, exactement. Alors là, franchement, je pense qu'on a tout dit.
Ouais. Donc sur ce, à dans 15 jours. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.
Portez-vous bien. Ciao.